Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission du SAV de la F1 consacrée au Grand Prix d'Allemagne à Hockenheim qui a vu Alonso s'envoler dans les victoires et dans le championnat à mi-saison. Pour m'accompagner, bonsoir Steve.
Bonsoir Shinji, bonsoir Dino.
Ça va? Non, ignore-le parce que si...
On peut chanter en duo?
Mais non, non, ah mais oui, tout à l'heure. Non.
On se réserve pour la suite.
Tu ne chantes pas.
D'accord, Jésus, d'accord.
Pas tout de suite.
Mais me le tape plus, d'accord. Non, maintenant je commence à réfléchir aux paroles que je vais donner à l'hymne espagnol, donc du coup, je me calme.
Tu te calmes, c'est bien.
Puis je crois que de toute façon, après la course, nos amis réunionnais en ont pris plein la gueule, donc du coup, voilà.
Ai-je vraiment besoin de vous demander si vous avez passé une bonne course?
Ah, c'était bien. Il y a eu quand même pas mal d'actions. On commence à s'habituer à ce genre de course. Et puis, ce coup-ci, les pneus ont tenu pour la Ferrari à la fin. Donc, c'était bien.
Dans les 20 ou 30 derniers tours, j'étais tendu comme un slip dans mon canapé, en train de faire le résumé, en me disant, putain, mais il va pas gagner. J'étais super tendu. Et à la fin, quand il a passé la ligne d'arrivée, il y a eu comme une exaltation extraordinaire. Et voilà, je vais réveiller tous mes voisins, par ceux qui dormaient encore. Voilà.
Mais c'est vrai que là... Les trois premiers se tenaient quand même proches pendant tout le long, quoi. C'était assez rare, ça, comme course, hein, quand même. En général, ils sont deux ou mais trois. C'est...
J'avoue sincèrement qu'à un moment donné, j'ai dit, ah, oh, ça va faire comme la Grande-Bretagne.
Oui, moi aussi.
Ça me fait chier.
Après, je me suis rappelé qu'il avait les mêmes que les autres. L'espoir revenait, quoi.
Ouais.
Et voilà. Mais sinon, la course, il y a eu quand même pas mal de bagarres, y compris des petites polémiques. Donc.
Oui,
certains pilotes, et d'autres pilotes.
Vous avez remarqué, voilà. Il est modeste, hein, il dit petite polémique.
Je ne vois pas de quoi vous parler.
Ouais, on verra.
Oui.
Il faut... Sylvie, passons au reste, dépêche-toi. Et...
Rappelez-vous, messieurs, nous étions le 22 juillet ce dimanche. Et qu'est-ce qui a bien pu donc se passer un 22 juillet?
Fernando Alonso a gagné.
Deux fois.
Oui, mais pas que ça. C'est maintenant.
Il a gagné deux fois, Fernando Alonso.
Ah, tu vas voir. Ah.
Le service après-vente de la F1 vous présente l'éphéméride de Shinji. Une rubrique si drôle qu'elle fait mérite.
Donc messieurs, je vous rappelle un chiffre qui a rapport avec un événement qui a lieu donc le même jour que le Grand Prix. Cette semaine, c'est le 22 juillet. Et le chiffre de la semaine est le chiffre 102. Et le premier qui me dit que c'est un double pastis, je lui fous une baffe.
Alors. C'est un double pastis, Shinji.
Hein? C'est un nombre de personnes? C'est un nombre de personnes?
Pas exactement. Mais il y a un nombre de personnes derrière.
C'est un nombre de doigts? Je ne sais pas.
Non. 102, hein.
102. Ah bah, il y a des doigts coupés.
102, c'est une unité de choses.
Oui. Disons que c'est 102 choses et dans chacune des choses, il pouvait y avoir plusieurs personnes, c'est pour ça.
Ah, vous savez, un moyen de transport, ouais.
C'est lié à un moyen de transport.
C'est Solar Impulse, voyons.
Encore?
Ah, non.
C'est le plus grand bus du monde, non?
Non.
Non.
Est-ce qu'il y a plus de 2 personnes par unité?
Il peut y en avoir plus que 2.
Plus que 10?
Non. Je peux te dire, en moyenne, c'était 4 souvent. Parfois 3, parfois 2.
Donc
c'est un moyen de transport ou pas?
Ça concerne un moyen de transport.
Donc c'est une unité, c'est 102 quelque chose, hein?
T'as dit. Oui, 102 quelque chose.
Des centimètres?
Non, mais vraiment, c'est 102. C'est des personnes, hein. C'est juste que c'est 102 groupes de personnes.
Ah,
c'est 102 groupes de personnes.
Voilà.
Qui sont dans un objet.
Pas dans un objet, non.
Qu'elles sont reliées entre elles par quelque chose.
Oui.
C'est par un réseau ou quelque chose comme ça?
Non.
102.
Elles sont reliées dans le sens où il y a un point commun, forcément.
C'est leur nom de famille ou non?
Non.
Mais ce point commun, il est pas concret.
Non.
C'est un truc original ou un truc de la vie courante, leur point commun?
C'est original.
C'est un rapport avec le Tour de France?
Non.
Avec un sport, en général?
Oui.
C'est un rapport avec la F1, hein?
Eh bien, oui, ça a un rapport avec la F1. C'est pas olympique.
Un rapport direct?
Non.
Donc c'est 102 personnes, enfin c'est 102 groupes de personnes. Et ils ont fait quelque chose de spécial en même temps, ces 102 groupes.
Disons plutôt qu'ils ont voulu faire quelque chose. C'est mais au final, je peux vous dire, ils n'ont été que 21.
Ah.
21 groupes.
Voilà.
Et ils ont réussi. Oui. Enfin, ils ont réussi ce qu'ils voulaient.
Même pas. Ah. Pas tous, en tout cas.
C'était pour établir un record.
C'était pas pour établir un record.
C'était une manifestation ou un truc dans comme ça.
Oui, c'était une manifestation.
En périphérie du Grand Prix. Enfin, d'un Grand Prix.
Pas en périphérie d'un Grand Prix.
C'est pas un concours d'ingénieurs ou un truc dans le genre, non. Concours de pilotage.
Non.
C'est pas les arrêts au stand en moins de 3 secondes. Non.
On peut dire qu'il y a un concours de pilotage. Non, c'est pas les arrêts au stand.
C'est un rapport avec le GP2 ou les autres voitures qui étaient à Hockenheim?
Oh non.
Non.
Oh non, donc c'est des vieilles voitures. C'est vieux comme événement.
Oui.
C'est le début de la F1.
Non.
Enfin, le début, les premières, les trois premières décennies, on va dire.
Non.
Années 80?
Non.
Années 90?
Oui.
Qu'est-ce que c'est des, une ancienne voiture? Non.
Enfin, si, on peut dire. Mais dans ce que je vous ai dit, il y a, on va dire, il y a une petite subtilité.
Ah.
Ça vous demande beaucoup, là, Shinji.
Est-ce que c'est déjà arrivé une autre fois avant ou quelque chose comme ça? Non, on sait pas.
Avant, non.
C'est ponctuel, c'est un truc qui a été fait comme ça une fois.
C'est nouveau, quoi. Enfin.
C'était nouveau.
Hein.
Aujourd'hui, c'est plus nouveau, c'est quelque chose qui est coutumier nouveau. En Formule 1.
Oui, on peut dire oui que c'est coutumier en Formule 1.
Attends, des trucs avec des groupes. Comment ça marche?
Il y a une question que vous avez posée, en fait, qui était trop précise.
Ah.
Oui.
Ces personnes, elles travaillent dans la Formule 1 ou pas?
Ah non.
Non, elles sont pas des écuries ou quelque chose comme ça.
Non. Même si je peux dire que parmi ces groupes,
ah oui,
il y en a qui ont travaillé en F1.
Ah,
ça m'inquiète ça.
C'est pas les journalistes ou un truc comme ça, non?
Non.
De F1, non?
Donc il y a 102 groupes et il y en a que 21 qui sont arrivés.
Non, au départ ils étaient 102, puis au final ils ont été 21 et au final ils ont été que 17.
C'est un truc à étapes?
Non.
Ils ont abandonné les autres.
Il y avait certains ont abandonné. Ah. D'autres n'ont même pas commencé en fait.
Ah bon. Et ça
c'était inscrit.
Oui, c'est 102 inscrits. Mais à quoi?
Mais ça s'est passé à Hockenheim?
Ah non.
Non. Ils sont inscrits à quoi?
102 inscrits. Et ça a un rapport direct avec la F1.
Oui, ça on peut dire que ça a un rapport direct avec la F1.
Donc c'est un truc sur internet, non?
Non.
Ils sont inscrits
Ils se sont inscrits à quoi?
Pour remplacer Christophe Malbranck? Non.
Non.
Bah, concours de pronostic? Non.
Non.
Et est-ce qu'il y a d'autres sports qui sont concernés par cette inscription? Ou c'est que la F1?
Ah, c'est que pas la F1.
Non.
Mais ça a été fait à l'occasion, enfin.
Non.
C'est ça que j'arrive pas à voir le lien avec la F1.
Tu nous as dit, il y avait un lien, non?
Mais... Oui, il y a un lien. Quand vous allez voir le lien, il est gros comme une maison.
Ah.
Mais ça, non, mais qu'on soit bien d'accord. Quand tu dis qu'il y a un lien avec la F1, c'est un lien réel avec la F1 ou c'est juste une allusion dans ta tête, un truc de pervers?
Ça peut être le
deuxième. Non, il y a un lien réel avec la F1.
C'est un lien avec une écurie spécifique?
Non.
Donc les personnes qui sont en groupe, c'est comme des relais en fait. Ce serait un truc sportif, non? Ce serait pas ça?
Oui, ce sont pas plus sportifs. Après, c'est pas en relais, c'est-à-dire que dans le détail, il y a eu une pause au milieu en fait, mais. Ne cherchez pas par là parce que ça va vous.
Ils devaient construire une Formule 1 quelque chose?
Non. Ils auraient pas pu construire une F1.
Ils sont manchots.
C'est pas les étudiants en rapport avec les écuries de F1, non? Un truc comme
non.
Ça? C'est des enfants donc, non? Ils auraient pas pu, ah bah non.
En fait, la subtilité, c'est que tu m'as demandé dans quelle décennie c'était. Je t'ai répondu.
Années 90.
Ouais. Mais il y a une subtilité.
1890?
Oui.
Ah.
Ça existait pas, la F1.
Ah, voilà, ça existait pas.
Attends.
Bah, les premières voilà. Les Mercedes, alors? Non.
Non.
Mais ça a un lien avec l'automobile.
Oui.
Ah, mais quand tu dis qu'il y a un lien avec la F1, c'est parce que c'est un constructeur. Non.
Je dirais même que c'est plus important que ça encore.
Le premier Grand Prix.
La première course de voiture.
La première course de voiture.
Ah. En 1895,
ah bah oui,
non, à peu près.
En 1894. Donc t'es d'accord 94. Que sans première course de voiture, il y a pas de F1.
Ah oui, oui, c'est un rapport avec la F1,
oui,
mais
oui,
c'est
oui,
pas de la F1, oui, d'accord.
Ah oui, on est d'accord qu'il y a quand même il y a un lien.
Oui, il y a quand même une ressemblance, oui. Oui.
Ah, voilà. Et en effet, donc 102, en fait, la première, il y a eu 102 engagés hein, à l'origine pour la première course automobile de l'histoire. Elle s'est déroulée en France entre Paris et Rouen, tiens, d'ailleurs, justement, donc, le 22 juillet 1894.
Oui, parce qu'on est rouennais, hein, pour ceux qui n'auraient pas suivi.
C'est une épreuve qui a été organisée par un Normand, Pierre Giffard, qui était journaliste pour Le Petit Journal, qui était un grand quotidien parisien de l'époque.
Oui, pas l'émission.
Non, hein, c'est pas les mêmes.
Pas la même. Hein. Donc, c'était un concours des voitures sans chevaux, qui était ouverte à des véhicules qui devaient être sans danger, aisément maniables pour les voyageurs et ne pas coûter trop cher sur la route. Donc c'était plus une démonstration qu'une course de vitesse, mais c'est quand même considéré comme la première course de l'histoire. Alors il y avait plein de projets différents parce qu'il n'y avait pas que des moteurs à explosion à essence. Hein. Parmi les ceux qui s'étaient engagés, il y avait donc des voitures à vapeur, des voitures actionnées par gravité, par le poids des passagers, des voitures hydrauliques, à air comprimé, à levier, à pédale, avec liquide combiné, même déjà des systèmes électriques. Mmh. Alors, avant d'être admis, il y avait des éliminatoires. Hein. Les voitures devaient parcourir 50 km en moins de 3 heures, qui a une moyenne d'à peu près de 16 km/h, hein, 16-17 km/h. Il y avait 5 trajets. Hein. Il y en avait 2 qui reliaient Paris à Mantes, un par Flins, justement, et un par Poissy. On parle de Steve Corr aussi. Un vers Rambouillet, un vers Corbeil et le dernier vers Précy-sur-Oise. Et en fait, des 102 inscrits, il y en a que 26 qui se sont présentés au rassemblement préliminaire.
Ah oui, bah déjà oui. Voilà.
En fin de compte, il y en a que 17 qui ont pris part aux éliminatoires. Mais, et comme quoi, ça ne date pas d'aujourd'hui, au final, il y a eu 21 véhicules qui ont pris part à la course.
Ah, ils sont...
Oui, il y a eu des repêchages. C'est ça, je dis ça. Il y a des choses qui ne datent pas d'aujourd'hui.
Oui.
Alors, le programme prévoyait un départ de la porte-maillot à 8h, un déjeuner entre midi et 13h30 à Mantes. C'est pour ça qu'il y a des étapes. Il y avait une étape.
Avec la pause, ouais.
Là, il y avait une pause. Et arriver vers 20h à Rouen, sachant que donc, au final, ils n'ont été que 17 à arriver.
D'ailleurs, on attend toujours les autres.
Non, les autres.
Si vous les croisez sur la route, vous leur direz qu'ils se bagnent un petit peu le cul, parce que là, du coup, ça commence à refroidir leur pas, si vous voulez, donc,
Et donc, arrivé premier, donc c'était un équipage de 4, c'est pour ça que c'était 102 engagés, mais c'est pas 102 personnes, il y en avait un petit peu plus.
Oui, parce qu'il y a aussi les mécaniciens.
Voilà, enfin, oui, ils roulaient avec les mecs derrière. Ouais.
C'était le comte Jules Albert de Dion, hein, la fameuse marque de Dion Bouton. Voilà, qui est arrivé en 6h48 à Rouen. Alors il paraît que ce qui est écrit dans le petit journal, c'est qu'ils sont arrivés, il y avait une énorme foule à l'arrivée de cette première course, qui était sur un véhicule à vapeur, hein. Et derrière lui, et c'est pour ça qu'il y a un lien avec la F1, en deuxième est arrivé Georges Lemaître, et en troisième Auguste Doriot, sur des Peugeot, qui elle était à essence.
Et le lien avec la Formule 1?
Alors, je sais que ça fait du mal, hein, mais tu sais que Peugeot a fait des moteurs de F1.
Oui, non, mais,
essayez d'en faire.
Oh, le lien avec la F1. Le lien.
Si, c'est une course de voiture, quand même.
Voilà. Donc, le deuxième est arrivé en 6h51 et le troisième en 7h04.
Ah, ils avaient le temps de compter les arrivées.
Ah oui, parce que
il y a pas de photo finish.
Les quatrième et cinquième sont arrivés en 7h21 et en 7h43. C'est les fameux Panhard et Levasseur. Panhard arrive en quatrième et Levasseur cinquième. Et donc, ils sont arrivés 17e, hein, le dernier arrivant au bout de 13 heures. Mmh. Ernest Archdeacon sur une Sarpolet à vapeur. 4 abandons. Alors, il y a eu 102 inscrits. Alors, des trucs assez originaux. Alors, il y en a une qui titille, c'est que les inscriptions 97 et 98 étaient allemandes. C'était des voitures, des Benz, en fait. Des ancêtres des Mercedes. Et en fait, le nom du pilote, des pilotes inscrits, il y a juste marqué Monsieur Dutch.
Mmh. Ah oui.
Voilà.
Dutch.
Donc c'était la première course qui est considérée encore aujourd'hui comme la première course automobile de l'histoire. Et sinon, en F1, eh bien, faut se rappeler du Grand Prix d'Europe 2007.
Très beau.
Attends, je vais deviner par qui il a été remporté. Ah, alors.
Mais surtout que c'était pas du tout Ferrari, surtout.
Non.
C'était Massa qui était en tête pendant un moment et Alonso l'a passé
c'est un peu mal fini,
5 tours de la fin. Non, c'était bien.
C'est le fameux jour de gloire de Marcus Winkelhock.
Ah oui.
Oui.
Quel pilote.
Il a surtout eu du nez de mettre ses pneus pluie dès le départ. Hein,
oui.
C'est ce qui lui a
permis. Mec, il a fait qu'un Grand Prix et il a mené le Grand Prix.
Il a mené 3 tours, mais il l'a mené. Et il y avait déjà eu une polémique, vous vous souvenez, avec Hamilton. Il avait été aidé par les commissaires et il avait repris la piste.
Oui, ça a fait précédent, quoi.
Ah oui, parce que maintenant c'est complètement.
Ça lui avait bien servi en Chine un peu plus tard, hein, d'ailleurs, d'être coincé.
Oui.
C'est... Voilà.
Tout se paye.
Bah, en F1 surtout, oui, je crois que dès qu'on fait un truc, le coup d'après, on se fait. On peut demander à Vettel.
À l'époque, c'était le 400e Grand Prix pour le moteur Renault. Donc voilà, c'était tout pour l'éphéméride.
C'était un bel éphéméride, Shinji.
En plus, pour une fois, il y avait quand même un petit lien avec la F1.
Ouais, voilà, tu vois, j'aime bien
oui,
ce
c'est
que
vrai.
J'ai dit. Ah, un petit lien. Ça commence au début, il y avait un lien. Et là, il y a un petit lien. Vous allez voir, à la fin de l'émission, il y avait un micro-lien. Et dans deux semaines, il n'y aura plus de lien. Ça sera terminé.
Voilà, tout à fait. Dino, c'est le moment de l'invité.
Oui, l'heure du... l'heure de gloire de l'invité.
Le service après-vente de la F1 vous présente l'heure de gloire de l'invité.
Alors Steve, tu le sais, c'est ton heure de gloire, c'est ta participation à l'émission, tu es le 10e invité différent en autant d'émissions.
Oui. Oui.
Voilà, c'est quand même, c'est faut le dire, c'est ça, la Formule 1, ils n'arrivent pas à le faire, mais nous on y arrive.
Oui.
Et donc nous avons décidé cette saison, tu le sais maintenant, de vous consacrer un quart d'heure de gloire, si Gigi veut bien fermer sa gueule.
Oh, ta gueule.
Et tu le sais, l'heure de gloire de l'invité, ça commence par...
Le pour, pas pour.
Le pour, pas pour. Donc, je rappelle le principe rapidement pour ceux qui nous découvrent. On va te poser 10 questions au regard de l'actualité récente et tu nous diras si tu es pour ou pas pour. Tu n'as pas le droit de dire contre. Ah. Et à la fin, tu pourras revenir sur trois sujets et approfondir, donner ton opinion en détail.
D'accord.
Es-tu prêt ?
Je suis prêt.
Alors, on commence pour ou pas pour la diffusion des Grands Prix sur une chaîne payante ?
Pour.
Pour ou pas pour les câbles HDMI?
Pour.
Oui, non, mais c'est une question vitale.
Ah oui, oui, on se pose souvent la question.
C'est... Pour ou pas pour que Charles Pic reste chez Marussia en 2013?
Pour.
Pour ou pas pour les museaux à étage en 2013?
Pas pour.
Pour ou pas pour le Hungaroring?
Pour.
Ah, c'est dit dans ta gueule. Oui,
tu vas le faire même après?
Même après.
Ah, merde.
À chaque fois.
Il y en aura un petit spécial la semaine prochaine.
Voilà, oui.
Ensuite, pour ou pas pour le départ de Giorgio Ascanelli de chez Toro Rosso?
Pour.
Pour ou pas pour que Romain Grosjean aille déjeuner chez Jackie Stewart?
Pas pour.
Pour ou pas pour la disparition du Nürburgring?
Pas pour.
Pour ou pas pour la prolongation du contrat de Mark Webber chez Red Bull pour 2013?
Pour.
Et enfin, pour ou pas pour, un accord sur la réduction des coûts en Formule 1.
Pour, mais. Ça, c'est le...
Il y a toujours un mais.
Il y a les choses qu'on voudrait, mais qu'on sait très bien que ça arrivera jamais. Hein, voilà.
Donc ça nous fait 3 pas pour le reste du pour. À noter, donc, tu es pour les câbles HDMI.
Ah,
ben. Bah, quel homme étrange.
Ils sont quand même utiles pour la télé HD, quoi. Donc, voilà.
Oui, c'est vrai.
C'est vrai.
Sinon, on serait un peu... Voilà.
Et donc, tu es pas pour les museaux à étage en 2013, que Romain Grosjean aille déjeuner chez Jackie Stewart et la disparition du Nürburgring. Au choix, sur les 10,
c'est vrai que le Nürburgring, bon, c'est vrai que c'était pas l'ancien circuit comme on le rêve maintenant, mais c'est quand même une piste qui est un peu historique malgré tout, même la nouvelle version qui a au moins 25 ans. Je pense, l'alternance avec Hockenheim, pour moi, ça me plaît bien, parce que... Comme ça, on n'a pas le temps trop de s'ennuyer avec la même piste tous les ans, quoi. Voilà. Et puis bon, Nürburgring ou d'autres circuits récents qui sont arrivés, Nürburgring est quand même plus intéressant.
Un deuxième sujet sur lequel tu aimerais revenir?
Dans les pour, il y avait la télé sur les chaînes payantes, mais ça, c'est vrai que c'est pas évident. Je suis un peu partagé sur cet avis parce que d'un côté, pour attirer plus de gens, il faudrait que ça reste sur une chaîne gratuite. Et de l'autre, pour les vrais fans qui voudraient un peu plus de contenu et de qualité et qui seraient prêts à payer, c'est vrai que c'est tentant aussi. Et donc, j'avoue moi-même que je saurais même pas dire si, vraiment, de quel côté je serais, quoi. Ouais.
Moi, je paye, je m'en fous.
Faut dire que pour l'instant, c'est vraiment pas du tout ce que
c'est
ça
flou,
va donner.
Ah ouais.
C'est vraiment très très flou. Après,
ce qui est nouveau, c'est qu'il y a un appel d'offres.
Oui, ça c'était, c'est normal, c'est tout à fait normal.
Oui, non, mais c'est normal.
Ça a été fait.
Ils auraient très bien pu prolonger et ne pas faire d'appel d'offres. Là,
non, mais même quand ils prolongent, il faut faire un appel d'offres.
Oui, je crois, oui. Ouais.
Parce que ils en parlent autant. C'est public comme ça.
Non, on se doute bien que il y a des raisons.
Après,
parce que ça a pas duré extrêmement longtemps. D'ici peut-être la fin de l'été, on en saura beaucoup plus.
Bah oui, bah c'est vrai que. je demande quand même à voir la télé, les Grands Prix à la télé avec quelqu'un d'autre que ses commentateurs aussi un petit peu. Ça nous changerait. C'est pas que je suis contre eux vraiment, mais ça fait un peu de sang neuf, quoi.
Un peu quand même.
Bah, c'est vrai, hein. J'ai un souvenir quand même.
Gratuit, mais haute part. Je pense que c'est la phrase que tout le monde, c'est gratuit, mais haute part.
Ouais. Au Grand Prix de Silverstone, j'ai encore en mémoire la phrase de Lafitte, je comprends rien. Quand Alonso sort du stand, et qu'il pensait que Weber allait être juste derrière lui, et que c'était pas le cas. Qu'ils avaient oublié 5 secondes. Donc, bon.
Mais c'est dommage parce que je trouve Lafitte, quand tu l'écoutes en dehors des commentaires, il est pas trop mal.
Oui.
Là, je vois dans Dimanche F1. Moi, j'aime bien quand il est dans Dimanche F1 parce que il dit des trucs. Ça n'engage que lui, c'est que son opinion. Mais au moins, ça fait l'objet d'un débat. Et,
oui.
Tu peux te faire un point de vue sur ce qu'il dit. Le problème, c'est qu'en Formule 1, malheureusement, il dit pas grand chose. Et quand il dit, c'est soit banal, soit.
Ou à côté de la plaque.
Tu lui auras pu se taire.
Oui. Ou alors le truc, on l'a déjà vu depuis 30 secondes, quoi. Hein. Oui. Pendant la course, on l'a déjà vu. Mais bon, c'est vrai que c'est... On verra l'année prochaine, mais bon... Perso, je préférais quand même qu'au moins le Grand Prix reste sur une chaîne gratuite, quoi. C'est vrai que ça ce serait...
La F1 sur France 2 commentée par...
Non,
Fernando Alonso est en tête de la
avec
course.
L'interview sur la grille de Lewis en anglais.
Ouais.
Sinon, je peux revenir sur le Hungaroring, si vous voulez, vu que c'est ce week-end.
Ah,
donc à faire.
Si tu veux, oui.
Ben, c'est vrai que, bon, Alonso a gagné sa première course là-bas, donc ça reste toujours un bon souvenir. C'est pas tellement le tracé est quand même technique et intéressant. Mais c'est comme c'est souvent le Grand Prix d'avant les vacances, il y a une espèce d'atmosphère, à la fois, je pense, pour les participants un peu, et pour nous qu'on regarde. On se dit, c'est un peu le Grand Prix des vacances, quoi. Et on les voit, et il y a souvent des courses à rebondissements, quoi. En fait, cette course, il y a beaucoup plus de Grands Prix qui sont plus monotones que cette course, quoi. C'est ça?
Oui.
Genre le Grand Prix d'Espagne, ou même le Grand Prix de Silverstone, qui est pas tout souvent passionnant, ou même
c'est
le Japon.
Et souvent propice à des premières victoires, ces dernières années.
Oui. Et même le... Button aussi, c'était, je crois. Mmh. Aussi.
Ouais, enfin,
il y en a eu 4 au total.
Il avait bien été aidé par la roue de la Renault aussi, mais bon. Ah, puis le dernier virage de qualification, c'est quelque chose aussi. C'est vrai que les qualifs sont souvent disputés, et là, c'est samedi, ça va être bien, là, je pense. Vu que c'est assez serré, c'est même très serré, et là que la qualification.
Non, c'est encore Alonso qui va faire la pole.
Bah, s'il pleut, oui, sinon ça va être serré. Ça, c'est sûr. Mais ils annoncent, apparemment de la pluie pour vendredi, j'ai vu, mais bon, on verra.
Ah.
On sait pas. Mais c'est vrai que ce circuit est pas si nul qu'on entend dire, hein. Les courses à Barcelone à côté, c'est quand même autre chose. Donc
Toi, Shinji, tu retiens, tu enregistres.
mais arrêtez.
depuis que tu demandes pour ou pas pour le Hungaroring, tout le monde a dit pour, non?
Il me semble que tout le monde a dit pour. Ouais.
Donc c'est lui, voilà. Ben voilà, rien d'autre à ajouter, je crois.
Mais j'aimerais que Shinji un jour dise pour. Le jour
mais
où Shinji dit pour,
Raikkonen s'il gagne dimanche, tu changeras d'avis.
Hein, voilà. Mais maintenant, je dis pour.
En plus, c'est possible. Hein,
non, t'as jamais dit pour.
Non, puis si.
J'ai ouvertement dit que, en effet, il y avait de très bonnes courses sur le Hungaroring.
Oui, j'ai pas dû bien entendre.
Ah. Oui, mais plus,
t'as pas dit que t'étais pour le Hungaroring. T'as dit il y avait des belles courses.
Mais non, écoute,
c'est que tu reconnaisses que c'est un super circuit.
Bien, je dis pour le Hungaroring.
Ah, bravo. Ouais, je vais vous lâcher avec cette question.
Puis cette année, il y aura le PRS.
À quoi je vais passer maintenant? Faut que je trouve un autre circuit de merde à vendre.
Ah bah, dis pas tout de même que c'est un circuit de merde.
J'ai jamais dit ça, je te dis.
Tu viens de dire, oui, un autre circuit de merde à vendre.
Disons, ça, c'est toi qui as parfait.
Disons qu'il y a cinq ans, c'était le circuit de merde. Alors que maintenant, il y a plus le choix.
Oui, voilà. Non,
mais c'est ça le problème.
Sincèrement, c'est vrai que c'est ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'aujourd'hui, je pense que la cote du Hungaroring remonte.
Oui. Voilà, parce qu'il y a des circuits qui se mettent en dessous, quoi. Voilà. Bah oui, c'est vrai. Bah, faut dire la vérité.
Et sinon, comme t'as parlé du Hungaroring, allez, on t'en accorde un quatrième sujet, si tu veux revenir vite fait sur un quatrième.
Ah, bah, dans les pour, il y avait, tu peux me redire les pour du début?
Les pour, donc, le câble HDMI, Charles Pic, le museau à étage. Non, ça c'est
pas
le
pour. Museau, si, bah, le museau à étage, de toute façon, c'est le règlement qui est débile, donc après, ils peuvent s'arranger, autrement. Je pense quand même qu'ils vont faire quelque chose, j'espère aussi.
Ah, pas.
Ils ont dit qu'il y aurait pas obligation
voilà.
de changer.
Voilà. Bon.
Ils vont inciter, mais il y aurait pas obligation.
Bon, après, puis bon, c'est vrai ça nous fait encore bizarre, mais on est moins horrifié qu'en début d'année là. Enfin, je sais pas vous perso, mais
on s'habitue,
c'est comme aux grands ailerons et tout. Hein. Maintenant, je regarde la Ferrari 2010, je me fais waouh, elle est belle et tout. Mais alors qu'en fait,
peut-être pas.
On s'habitue. Ça veut pas forcément dire qu'on trouve ça joli, mais on s'habitue.
On s'habitue, ouais, ça nous choque moins quoi. On trouve pas ça beau, mais on s'habitue. Oui. Pour 2014, ce sera encore rebougé à ce niveau-là le règlement. Non.
Bah de toute façon, comme il y a une refonte du règlement
technique. Donc je pense qu'ils vont en profiter pour mettre les mesures qu'il faut pour qu'on retrouve pas ça quoi, quel que soit le choix de l'équipe quoi.
Ouais.
Je pense. Voilà. Elles vont être belles les voitures 2014.
Ça risque même d'être la seule grosse différence entre 2013 et 2012 hein, justement.
Ouais. Et la bonne grosse nouvelle c'est que normalement si les mises au étage sont là, on verra une McLaren moche l'année prochaine. Puisque clairement Hamilton et Button ont fait comprendre ces dernières semaines qu'il faudrait passer aux museaux à étage. Et ils ont dit c'est la solution, on n'y coupera pas.
Ah oui. En tout cas, ils ont fait un bel arrêt au stand. On va en reparler peut-être. Mais,
ce week-end. Justement, c'est mon drive-thru.
Ah oui. Ouais. Bah, on en reparlera tout à l'heure. Alors. Ouais.
Non, mais je crois qu'ils en parlent déjà suffisamment eux-mêmes.
Et j'ai vu il y a une vidéo sur internet où il y a la comparaison. D'un côté on voit Button, puis de l'autre côté Vettel. Mais là, une seconde de moins à ce niveau-là, c'est une éternité, quoi. C'est terrible.
Ah ouais, non.
C'est-à-dire qu'ils ont, au moment où le gars de Red Bull prend la roue, qui est usagé, ils ont déjà mis la roue neuve chez McLaren, quoi. C'est terrible. Je sais pas comment ils ont fait, mais ils sont balèzes.
Mais ils sont en train d'observer en ce moment chez McLaren, justement, enfin, pas trop sur la voiture, mais sur les aérostands. C'est bizarre, c'est qu'au début de saison, on les observait sur la voiture, mais pas les aérostands, et maintenant on les observe sur les aérostands,
mais pas
sur la
voiture. Il faut additionner toutes les bonnes options, hein. Ah ouais.
Donc ensuite, quelle est l'actu dont tu n'as rien eu à foutre ces dernières semaines?
Ah, alors, ça j'avoue que j'ai pas préparé, alors
En dehors des Grands Prix, hein, genre... la victoire de Fernando Alonso, j'en ai rien à y foutre.
Bon, on s'habitue, non.
Oui, c'est vrai, on s'habitue.
L'actu hors Grand Prix récemment, il n'y a pas énormément de choses. Enfin, je me souviens plus. Hein. Comme je vois aujourd'hui Toto Wolff pour Frank Williams, bon, je veux dire, le gars, il est déjà là. Les choses d'organigramme, en général, ça me passionne pas énormément. Quoi. Parce qu'en fait, les personnes sont déjà dans la place. Et donc, voilà. Au niveau du fan de F1 de basique, voilà. Des choses comme ça, quoi. Ouais. Et sinon, l'actu...
L'actu hors Grand Prix que tu aimerais lire dans les prochaines semaines.
Ah, ça, Mais il m'a mis une idée, c'est Schumacher qui m'a mis l'idée en tête, c'est le retour de Michelin. Je sais pas s'il l'a pas dit comme ça.
Oh non.
En se plaignant des Pirelli. Non, mais en manufacturier unique.
Oh non, mais même pas,
ils veulent pas. Unique.
Des vrais pneus, quoi. Voilà.
Mais c'est des vrais pneus, mais arrêtez!
Ah oui, Pirelli, non, c'est vrai que maintenant, je peux plus critiquer Pirelli maintenant depuis 10 mois. Je sais
pas. Voilà, en plus, ouais. Tu vois.
Oui, tiens.
Je me mets un propre drive-thru. Oui. Non, ils sont très bien, les pneus Pirelli. Non, mais dans les actus, par exemple, Jules Bianchi promu, ça me plairait bien, moi. Parce que, pour qu'il ait une chance de titulaire, il le mérite, je pense, vu sa carrière.
Mais en tout cas, Vijay Mallya n'a pas écarté l'idée.
Voilà. Donc après, ça dépend d'un monsieur de 43 ans.
Oui.
C'est ça, apparemment. Voilà.
Espèce de papy, là.
Et j'ai vu ça.
Alors ensuite, quel est au contraire l'actualité, toujours en Grand Prix, que tu n'aimerais pas lire dans les prochaines semaines?
Bah justement, c'est un peu lié au transfert également. C'est ce qui va arriver, c'est le statu quo au transfert, quoi. C'est-à-dire que l'année prochaine, on aura les mêmes pilotes dans les top teams qu'on a depuis 2010. Ouais.
Allez, donc toi, t'aimerais que ça bouge.
Ah oui, bah au moins, je sais pas.
Au moins un.
Oui, voilà.
Alors, au moins Massa,
un nouveau chez Ferrari ou un nouveau chez Mercedes, au moins un quoi. Parce que là, c'est, ça va faire quand même la quatrième année où les grosses écuries ont les mêmes pilotes quoi. Puis ça, c'est, enfin. J'aime bien quand ça bouge un peu, comme voir des nouveaux pilotes, des nouvelles écuries.
Il n'y aurait pas eu de changement depuis 4 ans, c'est vrai.
Chez Ferrari, chez McLaren, chez Red Bull.
C'est vrai que
2010, ouais.
Bon, si on compte Lotus en top, mais sinon ça c'est une autre question. Là. Mais c'est vrai que
on va pas les compter en top.
J'aime bien voir un nouveau pilote arriver dans une écurie, voir comment il s'habitue, s'il progresse dans l'année, des choses comme ça, quoi.
Et du coup, toi, tu verrais qui exactement chez Ferrari et chez.
Est-ce que toi aussi, t'as ton petit papier avec ta petite liste, avec des noms complètement réalistes?
Ah, bah, Jean Alesi, oui. Non. Bah, chez Ferrari, ce que je voudrais vraiment personnellement, c'est que Perez passe, je pense. Mais il y a peu de chances que ça arrive vraiment. Je pense que là, si Alonso a son titre pilote, je touche du bois. Ferrari, ils vont se contenter de ça, ils vont garder Massa et puis ils vont faire monter un autre après, c'est-à-dire sûrement Perez s'il continue une bonne saison cette saison et l'année prochaine, je pense. Ouais. Mm-hmm. Parce que Weber, je pense qu'il va raccrocher la fin de l'année prochaine à mon avis. Je sais pas, peut-être comme Button un peu l'usure. Bon, Button revient là, mais ça vient, mais je pense pas que Weber il va faire encore 2 ans chez Red Bull là. Enfin, faut voir. Mais...
Et chez Mercedes, tu mettrais qui?
Bah, chez Mercedes, je pense que Di Resta il est quand même bien placé. Mmh, et oui. Que s'il attend encore 1 an, ça risque de faire comme Rosberg qui va patienter dans une écurie de milieu pendant plusieurs saisons de suite. Et puis ça, c'est pas très très bon. Quoi. Après, on le montre moins, on l'oublie un peu. Puis il suffit qu'il y en ait un autre qui arrive, un nouveau, puis qui déchire l'écran. Et puis voilà. Et donc, bah, chez Mercedes, Rosberg Di Resta, ce serait bien, ouais, comme paire de pilotes. Puis Schumacher, bon, c'est vrai que le cas Schumacher, je sais pas, on va en reparler. Enfin, le cas. Désolé les fans, mais.
Non, mais il s'occupera des arrow stands.
Ah oui, non, mais c'est. Je pense qu'il avait un contrat de 3 ans, il est revenu, il s'est amusé, et puis voilà, je crois.
Il fera le premier arrêt au stand en 21 secondes.
Voilà.
Temps d'arrêt, hein.
C'est lui-même
le mec
qui va changer.
J'arrête, il sort de la voiture. Il prend un petit café et tout, le temps que Schumacher retire la roue, tu vois.
C'est... Voilà. Non, non, mais c'est. Bon, après, malheureusement, comme je disais tout à l'heure, je pense qu'on aura le bon vieux statu quo pour l'année prochaine. Hein. Il y a quand même des bonnes chances.
Et sinon, côté drive-thru, est-ce que tu as un drive-thru, un carton jaune pour parler à nos amis fouteux sur ce Grand Prix?
Grand Prix, j'avoue que Red Bull, ils m'ont quand même agacé. Bon, que Vettel fasse des bêtises en piste dans le feu de l'action ou qu'il ait mal jugé, par exemple, à sa radio à l'avant-dernier tour, après la manœuvre, ils auraient pu lui dire laisse Button passer et réessaye au dernier tour. Alors là, c'est là qu'ils perdent des points, qu'ils perdent un peu le fair play entre guillemets. Ils discutent encore la pénalité alors qu'elle est inscrite dans le règlement depuis le Grand Prix de Bahreïn là.
Et ça, oh, c'est
ça,
pas les seuls.
Ça c'est je veux dire, ils n'acceptent jamais la pénalité, ils brandissent toujours des menaces. Helmut Marko en sort tous les 15 jours. Enfin bon, voilà. Ouais. Donc ce serait
non, mais là, c'est le serpent qui se mord la queue.
La communication de Red Bull, quoi, ce serait bon, très fou.
Ils peuvent même pas demander d'éclaircissement puisque l'éclaircissement il a été fait quelques jours avant le Grand Prix d'Allemagne. Donc du coup,
oui, non mais
voilà, c'est difficile de dire on veut un éclaircissement de la règle. Oui, mais elle vient juste d'être éclaircie, vous l'avez en chambre.
Oui, c'est ça que cette espèce de politique à la fois agressive techniquement, bon, ça a porté leurs fruits. Ils ont raison, je pense, de jouer au règlement. Justement, quand le règlement n'est pas clair, d'essayer de trouver, c'est ça la F1. Mais pour cette histoire du dépassement, là, de laisser Vettel faire, alors que on va dire, je sais pas, 90% des spectateurs ont bien vu qu'il y avait quelque chose, et après venir encore dire, ah non, il avait le droit de faire ça, alors que non.
Oui.
Voilà, ces réactions d'après course chez Red Bull qui.
Oui, bon, après c'est chez tout le monde. Hein. Je pense que c'est parce que ça arrive beaucoup, parce qu'il y a beaucoup, il y a beaucoup d'attention en ce moment autour de Red Bull. Après, je pense que globalement, enfin, toutes les équipes réagissent plus ou moins de la même manière dès qu'elles sont pénalisées.
Voilà. Après, il y a eu en plus l'histoire d'Hamilton qui les a soi-disant gênés.
Là, par contre, Horner a clairement défendu Hamilton.
Sur le coup, aussi, Vettel a quand même qualifié la manœuvre d'Hamilton de stupide. Voilà, si je me trompe.
C'est ce que j'avais déjà dit. Ce qui est dommage, c'est que.
Mais Vettel, il devrait le briefer plus que ça, je sais pas.
Voilà. C'est pas normal que le pilote derrière dans la conférence de presse, puisse sortir ce genre de choses dans la conférence de presse, quoi. On devrait avoir un mécanicien.
En plus, il sait très bien qu'après ça va.
Connaît, et qu'il le tempère et qu'il lui dit, écoute, tais-toi, laisse couler, voilà, parce que là.
Non.
Malheureusement. Et c'est ça, en fait, c'est la communication de Red Bull, que ce soit Vettel après la course ou même quelques déclarations d'Helmut Marko ou de Horner ou qui que ce soit, qui m'agace, quoi, honnêtement.
Mais bon, en même temps, l'avantage, c'est que on se plaint souvent du fait que les pilotes sont chiants comme
oui,
la pluie.
Là,
Là, au moins, c'est vrai que mine de rien,
on l'a vu pendant la.
Sur les déclarations de Vettel, je trouve rien à redire parce qu'il met pas en cause la crédibilité du sport ou voilà, il fait pas de diffamation. Donc voilà, il dit juste, voilà, c'est manœuvre stupide, ça manque de bon sens. Hamilton lui a répondu. Moi, je trouve que c'est bien, c'est du divertissement, ça fight un peu. Voilà, après, c'est sûr que pour la communication, il vaut peut-être mieux un peu le brider. Mais moi, personnellement, je vais pas m'en plaindre.
Non, mais c'est bien. En plus, pendant Red Bull et McLaren, ils se battent un peu entre eux, puis pendant ça, Ferrari sont tranquilles pour avancer, quoi.
Dino, tu as un drive-thru?
Oui, on parlait de McLaren, ce sera pour Martin Whitmarsh.
Ah,
Ah oui, j'ai failli le mettre aussi.
Martin Whitmarsh qui a annoncé aujourd'hui. Alors, accrochez-vous bien.
Attention.
Je m'accroche.
Alors donc, vous savez que la trêve estivale approche et je crois que les équipes sont obligées de fermer pendant 14 jours les usines et compagnie. Et McLaren, ils ont dit, nous, on va rien nous y oblige, mais on va fermer non seulement les usines de Woking, mais aussi la nouvelle usine des McLaren de route. Et il se met à dire dans l'interview, je sais pas ce que Ferrari va faire, mais voilà. Moi, ce qui me dérange un peu, c'est que c'est un petit peu semer le doute du côté de chez Ferrari en disant, ah, Ferrari va servir de son côté constructeur pour faire tout le monde, on devrait même arrêter les constructeurs. Il va demander à Mercedes d'arrêter de.
Bah, à ce moment-là, ils vont arrêter toutes les usines du monde, hein, je crois.
Voilà, non, mais voilà, j'ai envie de dire, est-ce qu'il va demander à Mercedes d'arrêter de produire des Mercedes pendant 15 jours?
Est-ce qu'il va demander à Red Bull d'arrêter de produire des canettes?
Voilà, non mais
ça sauverait des vies.
Alors derrière, il le dit, voilà, c'est on le fait, mais rien nous y oblige. Oui, rien vous y oblige. Et sincèrement, enfin, je trouve c'est de la démagogie.
C'est typiquement la déclaration pour un peu renverser la table, quoi. C'est provoquer.
En sachant très bien que de toute façon, voilà, les équipes font jamais parce qu'elles l'ont jamais fait et qu'il y a aucune.
Je pense que là, de toute façon, les vacances, ils en ont besoin aussi tous les personnels.
Tu peux pas demander à quelqu'un de fermer son service juste parce que service sport doit fermer, de fermer tous ses services. Oui. Enfin, c'est valable pour Renault. Renault, ils vont faire quoi? Ils vont arrêter de produire.
Ah oui, oui. Bah oui.
Et toi, Shinji, un drive?
Oui. Oh bah, il y en a même deux, mais c'est le même thème. C'est un classique, on va parler de télé. Alors je vais pas parler du 14e reportage sur les campings près d'Hockenheim, car bien évidemment en Allemagne, il y a
c'était original.
Des campings, hein. Il y a que des campings en Allemagne.
Et tous les fans allemands sont des beaux.
Voilà,
ils sont beaux, hein.
C'est génial.
C'est des gros beaufs pleins de bière. Voilà. Hein. C'est... Alors, maintenant, c'est le fan allemand, il est comme ça.
Plus, comme Choumi est là, hein, je peux te dire, j'étais devant l'écran, il y avait mon père, j'ai dit, tu vas voir, on va avoir le plan avec le gars qui a un tatouage Schumacher. Il y a tous les ans, il y a ça.
Ah ouais. Ah ouais, ça recommence.
Mais ça encore, ça allait. Parce que après la course, j'ai fait comme beaucoup de monde, j'ai mis la 2 pour voir la fin du tour. Et après la fin du tour, il y a Stade 2. Hein.
Ah, j'ai pas
Stade 2 qui nous fait le résumé de la course.
Fait longtemps que j'ai lâché Stade 2. Hein.
Donc, il nous explique donc que Alonso s'est baladé pendant la course. Hein.
Oui, s'est baladé vite. Hein.
Mais ils l'ont fait aussi sur iTélé et sur l'équipe TV, course facile dominée par
Alonso. Au stand. Hein, bien évidemment.
Oui. Non, tout s'est joué grâce à Lewis Hamilton.
Voilà, hein.
Plus ou moins.
Et bien évidemment, qui nous. Alors, pas un mot sur Vettel, pas un mot, rien.
Ah oui, non, mais c'est.
Dans son résumé, il n'y a rien sur Vettel, je veux dire.
Stade 2, ça fait longtemps que j'ai arrêté, moi, parce que quand on voit une image d'Hamilton et puis que le commentateur dit, oh, regardez, c'est Button, moi j'ai dit, ouais, c'est bon, c'est même pas la peine.
Pas Button, Jason Button. Qui n'est pas Button qui est en Porsche Carrera Cup. Non, Jason Button, il l'a dit deux fois. C'est pas une erreur, genre tu le dis. Non, il l'a dit deux fois. Donc sur son papier, ça va être marqué Jason.
Donc il pense
Jason,
vraiment. Ouais.
Voilà,
ouais.
Donc un champion du monde de F1 qui a gagné. Voilà, Jason.
En F1 depuis.
Le type n'est pas thaïlandais, il est pas malgache, il est anglais, il s'appelle Jenson.
Moi, tu vois, sincèrement, je serais TF1. Là, je ferai les négociations. Si j'apprends que le seul qui met du blé en face, c'est France 2, je mets rien sur la table. Je dis voilà, les fans, ils vont comprendre leur douleur. Quoi.
Mais vous allez
d'accord,
avoir pire.
La merde, ils vont voir sur France 2.
Il y a pire.
Et parce que quand même, bon, je me dis c'est pas grave. Ce soir, en plus, il n'y avait pas la nation. Je vais mettre dimanche F1.
C'était donc, du haut niveau, donc, hein, dimanche.
Donc on rappelle hein, qu'il y a deux ans, il y avait une super bonne émission qui s'appelait Autocritique, où il y avait des journalistes hein, qui suivaient la F1. Il y avait souvent Moncé, Froissart, Voissart. Voilà, ça parlait.
Il y avait pas Lagorce surtout.
J'ai envie de dire, Lagorce n'est pas le problème.
Ah,
non, bon. Non. Et donc.
Le problème, c'est Tomer.
Bah oui.
Donc ah, bah là, dimanche F1 qui parle 25 minutes de la course à peu près. Hein. Qui nous a parlé un bon quart d'heure donc de Tomer Sisley. Je n'ai rien contre Tomer Sisley, mais bon, savoir qu'il a piloté une F1, qu'il a fait le truc comme
il faut
plein
y mettre d'automoto, ça. Il faut y mettre d'automoto. Hein.
Oui, pourquoi pas. Hein, ouais. Mais voilà, dimanche F1. Hein,
dimanche F1, ça parle du Grand Prix. Ouais.
Voilà, 5 bonnes minutes sur bien évidemment l'actualité du week-end. Hein.
Oui.
Celle qui a fait trémousser Jean-Louis Moncey tout le week-end.
Ah oui, ça y est, je vois.
La nouvelle petite fille de Fernando Alonso.
Ah là là.
Ah, là, là.
Vous me direz déjà pendant la course, mon C, on a l'impression que c'est un scientologue qui cherche une meuf à Tom Cruise. Hein. Je sais pas, un jour on va découvrir que la meuf c'est la fille à Jean-Louis Moncé ou un truc comme ça, mais il a voulu sortir le truc, c'était incroyable. Et on y a eu droit avec les photos pendant Dimanche et Fin.
Mais comment il a pu quitter Raquel et tomber là-dessus, je sais pas, parce qu'il...
Entièrement d'accord.
Ah, non, mais Raquel, c'est un...
Ah bah, Raquel, moi, je
l'aime. Très belle.
Je l'aime encore, moi. Ouais. Ah oui.
Voilà. Non, il y a plein d'autres pilotes. C'est un pilote de F1, c'est Fernando Alonso. Il a le choix, lui, hein. Je veux dire, il est pas comme nous, hein.
Non.
Lui,
non.
C'est un pilote de F1, hein.
Il voyage.
Non, mais tu sais, je dis maintenant, j'ai oublié de te dire, c'est vrai, parce que je prends un petit peu de tous les numéros, mais animateur du SAV, ça brasse pas mal aussi.
Ah bon?
Ouais. Oh.
Donc voilà. Et à côté de ça, il y avait Tom Dillman, qui est un jeune pilote français, où en plus ils ont évoqué parfois même ses difficultés. Mais non, c'était quand même vachement mieux de parler de Tomer Sisley, qui en plus n'avait rien à vendre. C'est étonnant qu'il l'ait invité alors qu'il avait rien à vendre.
Oui, c'est un peu.
Et mais je crois qu'ils l'ont invité parce qu'il n'y avait pas Franck Montagny, mais ils sont quand même allés voir Franck Montagny.
Ah oui, le pauvre.
Oui.
Pour lui donner une tablette. Ouais, Franck, on te donne une tablette.
Oui.
C'est pas le seul.
Voilà.
Non mais pour revenir à
les tablettes se bradent.
Hein bon bah je sais pas. Mais pour revenir à Dimanche F1,
j'ai aussi beaucoup aimé Franck Lagorce, donc on a compris qu'il aimait pas les pneus Pirelli, qui nous a fait toute une explication pendant 5 minutes.
Il a exploré les pneus.
Alors le truc c'est qu'il a voulu nous expliquer
pour nous dire où ils étaient produits.
Oui, voilà, c'est-à-dire qu'il
savait déjà depuis l'année dernière.
Il a voulu nous expliquer pourquoi les pneus n'étaient pas bons. En réalité, ce qu'il nous a expliqué, c'est comment les pneus étaient fabriqués, traités et distribués auprès des équipes. Tout ça pour sous-entendre qu'en fait que les Turcs faisaient de la merde.
Oui, un gros sous-entendu, ouais.
C'est-à-dire qu'au début, il dit, oui, non, mais ils sont fabriqués en Turquie, ils sont pas très bien, puis il explique tout le cheminement.
Oui, alors, mais surtout.
On se dit, il va y avoir un truc où il va expliquer pourquoi ils sont pas bons, et à la fin, non.
Mais surtout, il y a 15 jours, Charles Pic, il a bien expliqué que les pneus, comment ça fonctionnait, c'était très intéressant. Et là, il était à côté, il a bien entendu comme nous, et il ressort son vieil argument, qui est faux, donc. Enfin, comme quoi, il écoute pas sa propre émission, quoi. Parce que quand Charles Pic a parlé des pneus, c'était très intéressant.
Oui.
La dernière fois.
Non, puis surtout, enfin, je trouve que c'est des arguments, mais c'est des arguments comme parfois on peut lire dans les commentaires de Fan F1, c'est des arguments tout préconçus. Et tu te dis, mais attends, mais ton argument, il serait valable aussi pour Michelin, aussi pour Bridgestone et compagnie. Enfin.
Oui. Ah, oui. Puis de toute façon, il y a peut-être, je sais pas, un train de pneus qui a peut-être un défaut, mais ça arrivait déjà au Bridgestone, etc. Quoi. Donc,
voilà, ça peut arriver.
C'est pas nouveau. Puis de toute façon, je pense que maintenant, ils ont quand même des moyens de production, etc. Voilà,
comme tu disais par rapport à Pic avait bien expliqué que les pneus, comme j'avais dit il y a deux semaines, les pneus réagissent bizarrement.
Oui, mais c'est tous les mêmes.
Voilà.
Ouais.
Et surtout, ce qui est super drôle, c'est que à un moment donné, il nous explique que les trains de pneus dans un même pneu, il y a des différences. Et il nous raconte l'histoire, cette histoire fantastique.
Ah oui, du
duromètre.
Ah oui, et alors
du duromètre qui permet de refaire des trains de pneus plutôt homogènes. Et derrière, dans le raisonnement qui est très intéressant et tout, on apprend des trucs. Mais derrière, il le fait juste que de te dire. Oui, en fait, on fait tout le temps ça en sport automobile. Donc, en quoi tu peux te permettre de dire que spécifiquement chez les Pirelli, il y a des problèmes, là où dans tous les sports automobiles, on fait ce même type de truc, à savoir essayer de comparer les gommes d'un même type pour avoir les gommes qui se ressemblent le plus, pour avoir les gommes les plus efficaces et faire ses propres trains de pneus. C'est pas spécifique à Pirelli, on fait ça à tous les trucs. Voilà, c'est juste qu'il faut arrêter de dire aux gens que les pneus sont systématiquement les mêmes, reconnaître le fait que c'est impossible de faire deux produits strictement identiques qui se comporteront pareil, mais que les propriétés intrinsèques et le mode de fonctionnement, voilà, de manière générale, même s'il y a des petites nuances aux marges, globalement, c'est les mêmes.
Ah, il me semble pas qu'il y ait eu de scandale, depuis l'année dernière.
Que...
Je veux dire, tout d'un coup, si on avait une HRT qui était en pôle, là, oui, il y aurait un truc, quoi.
D'ailleurs, tu remarqueras que, qui s'est plaint? Red Bull. Bizarrement, depuis quelques courses, on n'entend plus Red Bull parler des pneus. C'est dingue, hein.
Ah, mais
il y a que Schumi qui continue à dire ça.
Continue encore maintenant,
Voilà.
Oui, lui veut le retour de la guerre des pneus. Et Pirelli lui a répondu, non, mais il dit ça parce que, à l'époque, il avait les bons pneus.
Ce qui est pas faux.
Bah oui.
Ah oui, bah ça.
C'est une époque où il en avait des moins bons.
Ça a pas duré longtemps. Mais bon, je pense que là, ça a l'air quand même de se stabiliser, les.
Oui, parce qu'ils apprennent
la compréhension des pneus, ouais. Donc après, voilà, après, les courses sous la pluie, de toute façon, ça a toujours été une histoire de feeling avec les intermédiaires, etc. Donc, je pense que, voilà, ça va se calmer, quoi. C'est comme, comme l'année dernière, en début d'année aussi, où j'essayais Verdon, on entendait beaucoup de déclarations alarmistes. Et bon, après, il ne semble pas que le championnat ait été bizarre, quoi. Donc.
Et on va passer au qualif.
Mais on s'en fout, c'est Fernando qui gagne.
Ah, la qualif était magnifique. Honnêtement, je crois que c'était...
J'ai pas envie de m'attarder encore une fois sur Jean-Éric Vergne, qui encore une fois est 18e.
Bon. Ah oui, le pauvre.
Ouais. Le pauvre. À noter quand même, Pic.
Pour pas loin quand même, hein, vers
Non,
le grand
rondage.
Il était dans le coup, mais il est passé tout proche, quoi. Ouais.
Pic qui a fini devant Locke, qui était très content dans l'interview qu'il a donné pour Fan F1, parce que c'est vrai que le samedi matin même, il a fait 9 tours, dont 3 tours vraiment à fond, donc il a quasiment pas tourné le matin. Vraiment, pas mal.
Avec le peu de roulage qu'il a eu, oui, il s'est bien qualifié. Oui.
Il est qualifié. Donc après, évidemment, le gros morceau, c'est la Q2, qui, elle, vous avez remarqué, n'a pas été coupée par un drapeau rouge.
Ah oui.
Oh non, Fiji, non.
C'est bien.
Moi, je... Oui, mais non, tu peux pas faire comparatif, Fiji, puisque là, les pneus pouvaient évacuer.
Oui, bah, bien sûr. Et on remarquera, certains se sont fait piéger. Ceux qui étaient derrière n'ont pas réussi à faire des temps parce que voilà, ils pouvaient plus, mais au moins personne s'est fait gauler, tout le monde est sorti pour faire un temps, quoi. Voilà.
Non, puis voilà, c'est surtout ça la preuve que la piste était praticable, c'est que les mecs sont restés en piste, même ceux qui n'avaient pas de temps à faire et qui roulaient à 10 secondes et compagnie, ils sont restés en piste. Et ce qui fait aussi qu'on n'a pas sorti de drapeau rouge pour arrêter à l'essence, c'est non seulement que il pleuvait pas autant qu'à Silverstone, en tout cas la piste n'était pas autant gorgée d'eau qu'à Silverstone.
C'est pas la même piste.
Et c'est pas du tout la même piste. Oui. Le risque n'est pas du tout le même, vu que là, bah, Hockenheim, il n'y a pas de grande courbe, etc. Si ça avait été sur l'ancien Hockenheim, je pense qu'il y aurait eu drapeau rouge. Mais là, voilà, c'est sur cette version-là, il n'y a pas eu de grosse piste, il y a des énormes dégagements. Et
surtout que dans le stadium, la piste est un peu inclinée. Alors du coup, il y avait moins d'eau sur une partie. Donc
c'est ce qu'a fait la Russie.
C'était magnifique. Ouais.
Donc on se retrouve finalement.
Le qualif d'Alonso, il est incroyable.
Vraiment tous ceux qui n'ont pas pu améliorer, hein, c'est vraiment ça. Donc Rosberg 17e, Grosjean 15e. Mais là, c'est vraiment la Lotus, parce qu'on a vu même sur Raikkonen
c'est la première fois qu'il loupe la Q3, hein, je crois.
Voilà. Même sur Raikkonen, on voit que c'est vraiment la voiture, dès qu'il pleuvait, était nulle part.
À Silverstone,
il est une de merde pour Grosjean.
Ouais. Oui.
Dans l'ensemble. Enfin, j'ai pas trop suivi les essais, mais même dans les essais, il a pas été étincelant, j'ai vraiment l'impression que c'était un week-end.
En Q1, Raikkonen a fait un super tour, il me semble.
Oui.
Et Grosjean était à une seconde, une bonne seconde, hein. Donc là, déjà, on voyait que ça allait pas, quoi. C'était, ouais.
Donc, Massa, 14e, Kobayashi, Perez, 12 et 13, et Ricciardo, qui a quand même 11e. C'est toujours un peu la même chose avec Toro Rosso, c'est-à-dire qu'il y a un gros écart à chaque fois, en qualif, mais ça se renverse. L'ordre des choses se renverse en course. Et donc, en Q3, donc, Raikkonen qui fait 10, mais comme j'ai dit, avec la Lotus, avec le temps qu'il faisait, c'était difficile de faire mieux. Hein. C'est même déjà très bien qu'il ait pu accrocher la Q3. Di Resta qui fait 9 quand même.
Ah oui, Hülkenberg a fait un peu mieux quand même.
Ah oui. Tir groupé des McLaren 7 et 8.
Alors, ça c'était une surprise quand même, parce que sous la pluie, enfin, de ce que je me souviens de Silverstone, sous la grosse pluie, les McLaren étaient très bien. Et elles avaient du mal avec les intermédiaires. Et là, la Q3, c'était bien les pneus pluie, hein. Oui.
Ah oui, puisqu'il y avait.
Donc c'était un peu quand même une surprise de les retrouver aussi loin, quoi, les deux.
Mais ils ont confirmé, je crois que c'est Jonathan Neal qui a confirmé après dans une interview après Silverstone qu'en fait le problème de McLaren, c'est pas tant un problème de conception ou de performance de la voiture, parce que la voiture, la performance est là, mais c'est que c'est une voiture qui est une question de réglage. C'est une voiture, si tu mets pas le doigt sur le bon réglage, elle fonctionnera pas correctement.
Elle est trop fine,
c'est vrai qu'on le voit, enfin.
Au niveau de ses réglages.
Ouais, voilà. Donc, c'est là, ils avaient vraiment opté pour un réglage pluie, il y a 15 jours. Ça a marché bien.
Ouais.
Puis ça a arrêté de marcher parce que, je sais pas pour quelles circonstances, en Q3.
Faut dire aussi que les voitures étaient
là,
pas
ils
du
avaient
tout...
vraiment pris un réglage sec.
Les voitures n'avaient pas du tout de réglage
tous...
pluie.
Ils étaient tous en réglage sec, là, non?
Ah oui,
il y a personne qui avait tenté quelque chose, hein.
Ils étaient tous je suspecte les Force India d'avoir été en réglage mi-sec.
Parce que c'était pas du tout pris.
Oui, parce qu'ils avaient déjà, à Silverstone, il y en avait un qui était en sec et un en pluie, hein, je crois.
Ouais.
Donc ils ont peut-être fait Hülkenberg en pluie,
ils sont,
peut-être.
Voilà, ils sont souvent toujours un peu plus agressifs et je pense que
Hülkenberg a
notamment Hülkenberg était peut-être un peu plus typé pluie.
Il a mis une seconde et demie, non combien? Ouais, une seconde trois d'y resta. Ouais. Avec la même voiture.
Bon, après les écarts sous la pluie sont
pas. Ah oui, après c'est les tours. Hein, ouais.
Mais mais globalement, ne serait-ce même que de voir la Force India quatrième, sans faire un jour à la Force India qui est une relativement bonne voiture. Oui, non, mais elle fait quatrième sur la grille, ouais, ça. Mais voilà, voir la Force India à ce niveau-là, c'est quand même assez étrange, et donc je pense que c'est plutôt des réglages typés pluie. C'est pas non plus des réglages extrêmes pluie, hein.
Non, c'est ça aurait été idiot quand même.
Mais je crois qu'avec le parc fermé, de toute façon, ils peuvent plus,
ils peuvent plus
se permettre des trucs.
Dès le début du week-end, dès le début du week-end, ils avaient dit que samedi, il y aurait peut-être de la pluie l'après-midi, mais que dimanche, dès le départ, ils avaient dit non, il pleuvra pas dimanche. Sinon, Maldonado fait 6, hein, ça devient une habitude chez lui.
Bah, c'était pas mal, hein, pour lui. Mmh. Sous la pluie, c'est bien.
Hülkenberg 5, donc Schumacher 4 quand même.
Ah oui, oui. Bah, il était comme à Silverstone, il était là, en calé sous la pluie. Hein.
Mmh. Ah oui, ça, y a pas... ça c'est vraiment quelque chose, il a pas perdu, il n'y a pas de souci. Mmh. Et donc, autant donc Weber a quand même réussi à faire le troisième temps, derrière Vettel, mais quand même, c'est Alonso, qui fait pas tant de pole que ça, mais là quand même...
un peu, il s'améliore.
Voilà. S'améliore.
Et c'est une poule à l'expérience, hein. Enfin, sincèrement, regardez le tour, c'est juste hallucinant. C'est regarder le tour embarqué de la pole position de Fernando Alonso et imaginez-le sur le sec. Vous vous dites, ce pilote est pas normal, quoi. Ouais. Et en fait, il va vraiment, enfin, il y a.
Surtout dans le dernier secteur.
Voilà, c'est dans le dernier secteur, toujours sur les parties banking, à l'épingle, il va vachement à l'extérieur, c'est très coulé, c'est vraiment, là pour le coup, c'est l'expérience qui parle, on voit le mec à 10 ans de Formule 1 derrière lui.
Il faut montrer aux écoles de pilotage pour apprendre à conduire sous la pluie, quoi.
Sur la grille des temps, ça donne quand même un truc cocasse, hein, parce que voir Carty Kayan qualifié 24e en 1.20, Ricciardo qui
est 11e
en 1.39, Alonso qui fait la poule en 1.40.
C'est Verne qui a le meilleur temps des qualifs.
Ah oui, c'est Pires, parce que les 17 qui étaient devant lui, il y a quand même 17 types plus rapides que lui en Q1, mais sur ce qui reste.
Mais de leur temps enregistré, oui.
Mais ça, mais non, c'est avant les pénalités, parce que ça...
Ah, il y en a eu encore.
Hein. Donc, Grosjean, Rosberg et Weber, 5 places pour changement de boîte. On avait déjà pas...
Avec cette petite subtilité, que Grosjean perd 5 places, Rosberg en perd 4.
Ah bah là, j'ai fait... Ouais, ils font dans l'ordre, alors du coup.
Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, ils font à chaque fois qu'ils appliquent une pénalité, ils refont la grille.
Ouais, c'est ça.
Donc du coup, tu perds des places par rapport à la grille au moment où on t'applique ta pénalité.
Grosjean,
fait que Rosberg avait gagné une place grâce à la pénalité de Grosjean.
Et Grosjean l'a récupéré.
Il a reculé de 5 places. Il a bien reculé de 5 places, mais sur la première grille, la différence, elle était que de 4 places. Et on a connu des exemples où les mecs perdaient que 2 places.
Ah oui, oui. Même, je crois bien, j'ai lu une fois, même une seule place perdue, je crois. Alors qu'il avait une pénalité de 5 places. Je crois que c'est Barrichello une fois au Japon, une chose comme ça, j'avais lu.
Et donc, en plus de ça, il y avait Perez, qui lui a pas changé de boîte, mais qui a été pénalisé de 5 places pour avoir gêné. Alors, je crois que c'est Alonso et Raikkonen. Et deux, voilà. 5 places.
Quand on voit sa course, c'est dommage, quoi, sa pénalité. Donc il serait parti un peu plus haut et,
C'est la 22e pole pour Fernando Alonso. Ça, finalement, c'est assez peu, on se dit, oui, il doit en avoir plus, mais, voilà, 22.
Ah, bah, il fait ce qu'il peut.
207e et 208e pole pour Ferrari. Tu vois, ils vont pas se faire rattraper de suite par Renault.
Ouais, mais non, mais c'est mort, c'est mort.
Mais si, on va passer à la course et au top 10.
Le service après-vente de la F1 vous présente le top 10 de la course.
Alors Dino, peux-tu nous indiquer quel pilote ne fait pas partie du top 10?
Oui Shinji, je peux vous indiquer avec ce grand suspense.
Ah, je pense que les gens qui nous écoutent se posent un certain nombre de questions cette semaine.
Oui, y aura-t-il un effet Carty Kayan pour Schumacher?
Oui. Y aura-t-il un effet Schumacher pour Carty Kayan?
Oui.
Il y a peu de chance.
À noter que Timo Glock a bel et bien participé à la course, mais visiblement personne ne l'a vu, puisqu'il a marqué 0 points, en sachant que le vainqueur, dont nous cacherons volontairement l'identité, a marqué un total de 1503 points, et nous vous en remercions. En 23e position, il fêtait son 100e départ en Formule 1. Sa voiture n'est pas grise, mais verte. C'est équipé
de la même.
22e Bruno Senna avec 11 points, 21e Neerlan Kartikeyan avec 12 points. Quoi? quartier client seulement 12 points. Oh, pourtant. Eh, il a fait tellement, franchement, moi, je trouve que sa course a mérité exactement le même nombre de points que Valence.
Oui.
Ensuite, De La Rosa, 20e, 14 points. Ricciardo, 19e, 21 points. Petrov, 18e, 41 points. 17e, Romain Grosjean, 45 points. 16e, Maldonado, 47 points. 15e, Polo Di Resta, 61 points. J'aime bien dire Polo parce que j'aime bien. 14e, Felipe Aro Massa, ah. 62 points. Jean-Éric Vergne, 64 points. 13e, c'est une arnaque. 12e, Charles Pic, 84 points. Puis là, il y a un step avec Mister Eleven. Sa voiture est grise.
C'est Nico.
C'est Nico Rosberg, oh, avec 100 points.
Alors, ah, on, oui, va noter que, alors, moi et Steve, on a donné un point à Charles Pic pour, oui, son, enfin, moi, seulement pour son week-end. Par rapport, je l'ai dit, à sa qualif, où,
bah, oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ouais.
Voilà, il a pas beaucoup roulé. Bon, il a roulé le vendredi. D'ailleurs, où il était déjà devant, Locke. Samedi matin, il a pas beaucoup roulé. Il a quand même réussi à être devant. Et au final, sur la course, il est devant.
Oui. Donc, pour l'ensemble de son week-end.
Voilà. Donc,
et ça, puis pour ça, le, voilà.
Sinon, Dino et Steve, vous avez aussi donné 2 points à Rosberg.
Oui. Bah, c'est parce qu'il, ouais, est parti d'assez loin et puis qu'en fait, c'est pas si souvent qu'il gagne des places en course. Donc, j'ai voulu un peu le souligner.
Oui, pour le fond, on l'a vu, quoi.
Parce que il est quand même remonté et puis, il finit devant Di Resta, les Toro Rosso, les Williams, bon.
Alors, même si c'est vrai qu'il faut souligner que
les écarts sont quand même assez faibles entre les voitures.
Dans les pénalisés, il fait partie des quelques très rares pilotes, à avoir monté les pneus durs en début. Ah. Voilà, ce qui a un, ouais, petit avantage. Bon, après, on sait que la Mercedes, enfin, je n'ai pas vraiment vu là où était l'avantage en course.
Bah, il finit quand même, juste.
Ils sont restés ils sont restés, je crois, sur une stratégie à 3 arrêts, comme Schumacher.
Pour Nico, je sais pas, j'ai vu Schumacher. Mais je vois qu'il finit pas loin de Weber, donc c'est pas si mal, hein. Parce qu'il n'y a pas eu de safety car, c'est bien, hein, quand même.
Donc voilà, c'est pas une remontée transcendante, mais c'est une belle petite remontée. Il était très content d'avoir mis un point, il a fait des belles manœuvres de dépassement. On l'a vu.
À Silverstone, il était nulle part, alors il s'est un peu remis, quoi.
Oui. Comme on dit, il s'est sorti les doigts du cul.
Et donc, à la 10e place, il a marqué 138 points. Et vous l'avez lynché, hein. C'est un pilote Red Bull.
Ah, déjà.
Ouais. Vous l'avez lynché parce que bon, il finit 8e, vous le mettez 10e, c'est Mark Webber. Non, c'est pas l'autre.
Ah, mais moi je l'ai même pas mis, Webber. Alors.
Ouais, voilà.
Ça, je l'ai encore plus que lynché.
Voilà.
Bah, c'est-à-dire que la Red Bull est quand même une des meilleures voitures, si ce n'est la meilleure. Et il part 8e, il finit 8e. Quand on voit les courses des Sauber ou même de Schumacher qui a essayé une autre stratégie et qui finit devant. Enfin, oui, il partait devant, mais
voilà,
c'était pas au départ. On voyait peut-être Weber finir devant Schumacher aussi, donc.
Par contre, il était
transparent, quoi. C'est,
voilà.
Ouais. Bon, il a pris sa pénalité, mais on était en droit de penser qu'il puisse remonter plus facilement, quoi.
Ouais. Bah, surtout voilà, on s'arrache avec, autant à arriver à être troisième, on se dit que, mais finalement, oui, on l'a pas vu. Dans ce cas-là, passons à la 9e place. C'est un pilote Force India. C'est Nico Hülkenberg. Il a marqué 197 points. Et on lui a tous les trois donné 4 points.
Oui.
Mais il est un peu bas, je trouve. Dans le classement du top 10, dans le classement global. Parce que je trouve que, je pense que beaucoup de gens l'ont jugé par rapport à sa position de départ, en oubliant que sa position de départ est relativement insolite. Donc voilà, malheureusement, j'ai envie de dire, avec sa voiture, dans des conditions totalement différentes des qualifications, sans doute avec des réglages peut-être un peu différents.
Pour le sec, ouais.
Voilà, je pense que malheureusement, il ne pouvait perdre que des places et il finit 8e de la course, je crois. 9e. Donc voilà, il est quand même dans les points. Rien garantit que s'il était parti plus loin, il aurait quand même réussi à faire 9e. Donc voilà, je trouve qu'il a vendu chèrement sa peau,
on l'a vu en bagarre avec
course de débutant, il a commis des erreurs, mais ça c'est des erreurs face à des Schumacher, des Vettel, des Raikkonen et compagnie, des Button qui ont de l'expérience, mais voilà, donc une course décente, voilà, pour un mec qui avait fait quand même une très belle qualif et qui pour moi ne pouvait que descendre dans la grille.
Bah oui, je suis d'accord.
On va passer à la place suivante, si tu veux.
Oui, on va passer à la 8e place.
Ah, elle est belle, la 8e place, en plus.
Il a marqué 221 points. Il roule dans une écurie britannique. C'est Lewis Hamilton.
Louis Hamilton.
Oui. Ce soir, je francise tous les prénoms.
Ah bah oui. Oui, oui.
Oh non, non, ça, non, ça, non, ça, non. Ça... Dis pas, bah oui, ça va avoir le droit à du Fernand.
Non, mais il y a deux, trois prénoms qui vont être durs à trouver aussi.
Oui.
C'est ça, surtout.
Oui, il y, a... ouais, y en a un que...
Oui. Oui. Mais non, c'est plus drôle, justement.
Ouais, et bah Hamilton, bah moi je l'ai pas mis dans le top 10 parce que j'avais plus de place. Au début je voulais le mettre 9 ou 10 et puis du coup il y avait plus de place. Mais bah déjà, il me semble qu'en qualif Button est devant.
Oui. Donc
déjà ça a pas été comme à son habitude pour Hamilton. Et puis bon, après il a pas de bol de crever au début de course.
Il fait pas un début de course sensationnel, hein. Enfin.
Et puis
le premier tour avant la crevaison. Non mais c'est même avant la crevaison parce qu'il crève au deuxième tour.
C'est au deuxième.
Le premier tour d'Hamilton, il est pas extra. Alors que Button, il a déjà gagné 2-3 places. Le premier tour d'Hamilton, il est pas sensationnel.
D'ailleurs, on en a pas parlé dans les drive through, mais vu les débris qu'il y avait.
Ah oui, là, bah là, mais disons que c'était. À un moment, quand ils commencent à tous revenir, c'était trop tard, quoi. Ils allaient repasser. Donc, il aurait fallu mettre tout de suite la safety car, ou je ne sais quoi, mais.
Mais,
c'est vrai qu'il y avait beaucoup de débris, quoi.
Il y avait quand même un paquet de débris, assez monstrueux.
Bah, ils sont, Vergne aussi a été touché, je crois, non? En plus d'Hamilton.
Mais il y a eu beaucoup de crevaisons. Alors après, je sais, par exemple, Grosjean, je crois que c'est un contact avec Senna.
Oui.
Aussi. Ça. Mais,
Avec, vous vous souvenez, là, on a eu une communication radio juste après d'Hamilton. Où il dit, on ferait mieux d'abandonner, mais sur un ton. Alors lui,
je me souviens plus exactement.
Je pense qu'il en a ras-le-bol, Hamilton.
Ah ouais, ouais.
Ben, quand il
je pense que sincèrement, Hamilton, il va vraiment ras-le-cul. Je veux dire, lui cette année, il fait pas d'erreur. Il fait ce qu'il a à faire. Bon là, ce week-end, il est un peu à côté en qualif, mais sinon, il fait pas d'erreur. Il fait le boulot et
à chaque fois,
soit l'équipe, soit la. Voilà, comme il dit, il y a des débris sur toute la largeur. Il y a que moi qui crève.
Oui, c'est terrible.
Voilà. Alors il y en a d'autres. Je crois que c'est Maldonado qui s'est pris des débris sur le fond plat. Il y a des bouts de la voiture qui ont été cassés. Mais voilà, là quand même, la crevaison, elle touche un seul mec, Hamilton. C'est quand même super.
Et il te dit ça, tu te dis putain, il va se foutre une balle dans la tête.
Mais pourtant, il était genre septième, je sais pas, dans le peloton quand il a crevé. Donc il y a quand même Alonso qui a ouvert la route. Et il est passé entre les gouttes, quoi, Alonso. C'est là qu'Alonso, il est quand même béni des dieux cette année aussi. Faut être honnête.
C'est terrible. Qui passent devant lui,
ouais,
et encore rien.
Ouais, ouais.
Et les mecs qui passent devant lui, nécessairement, ils ont roulé sur des débris qu'ils ont dégagé de la route. Donc ils ont peut-être même traversé plus de débris que ce qu'a traversé Hamilton.
Bah Alonso, c'est sûr, quand on le voit au premier tour passer.
Le débris qui lui crève sa roue.
C'est pas de bol, quoi. Ouais, ça c'est clair, c'est la poisse. Bah on verra comment il réagit en Hongrie, hein, parce que si peut-être ça va peut-être lui trotter dans la tête après. Si Bulls fait encore un podium et puis qu'il n'y est pas, bon après.
Et c'est ça qui est bien justement, je trouve, dans la saison. Alors bon, au-delà de la malchance, mais ce qui est encourageant dans la saison d'Hamilton, c'est que malgré toutes les merdes qu'il a depuis le début d'année et où il pourrait franchement avoir les boules, on le sent pas en piste. Il fait pas de manœuvres inconséquentes.
Encore.
Mais ce qui est bien, c'est que il a gardé ce tempérament de battant et de mec qui est très confiant en lui, très confiant en son talent, tout en alliant ça à une vraie intelligence de course qu'il n'avait pas l'année dernière. Voilà, et un côté beaucoup plus posé en piste qu'il n'avait pas. Il a encore fait quelques petits trucs parfois, vrai. Mais
d'ailleurs, il s'est bien battu
pas aussi flagrant qu'en dernier.
Il s'est bien battu pour se dédoubler de Vettel.
Il avait
même
raison.
Même si ça a été correct. Enfin, je veux dire, il n'y a pas eu de.
Non, mais soucis. Il avait raison. Il avait
et puis raison. Il avait raison. Il était plus rapide.
Non, mais il y a aucune raison de.
Comme on dit certains, enfin, je veux dire, Vettel, mais on va pas demander à toutes les voitures qui traînent un tour de se ranger. Voilà, il était plus rapide.
Mais s'il est plus rapide, c'est rare comme cas, quoi. Ça, on n'est pas habitué, mais c'est pas.
Oui, c'est très rare.
Il a le droit de remonter.
On est d'accord, mais.
Et
voilà.
Surtout, ça touchait la bataille pour la victoire, quoi. C'est ça. Quoi.
Mais après, moi, c'est-à-dire que dans cette histoire-là, encore une fois, j'ai pas envie de choisir un camp. Je pense que je comprends les deux. Je comprends naturellement Lewis. Je comprends complètement la frustration de Sébastien Vettel. Et ça, oui, il a dit des déclarations, il a dit que c'était stupide, que c'était pas censé et compagnie, et des trucs que peut-être que certains auraient pas voulu qu'il dise, mais il l'a dit aussi parce que c'est un compétiteur, parce que à ce moment-là, lui ne voit pas l'intérêt, et c'est vrai que si on se met dans la peau de Sébastien Vettel à ce moment-là, tout ce qu'il a pas envie d'avoir, c'est un retardataire qui le dédouble, et il en a strictement rien à foutre. Moi, j'aurais été Vettel, j'en ai rien à foutre qu'il ait le droit ou pas. C'est juste, voilà, c'est juste que je le voulais pas sur ma route.
Mais là,
voilà, donc c'est peut-être la petite nuance qu'il aurait dû dire, c'est dire voilà, j'en ai rien à faire.
À ce moment-là, Vettel en course, est-ce qu'il pouvait aller, on peut toujours aller plus vite, je sais pas, mais il s'est pas justement mis à l'abri de ça aussi. Si, parce que Alonso, on s'est dit ça va faire pareil avec Alonso, finalement c'est pas arrivé. Donc après, est-ce que Hamilton était, je sais pas, il a des pneus un peu plus neufs, je sais pas.
Il avait des pneus plus neufs et en fait, ils ont surtout expliqué
la vitesse de pointe. C'est,
non, ils ont surtout expliqué le truc. Alors il y avait effectivement la vitesse de pointe de Fernando Alonso et on l'a vu en fin de course avec Button. Ouais. Mais ils ont surtout expliqué que en fait, apparemment, si Hamilton a doublé Vettel, c'est parce que on était en train de lui montrer les drapeaux bleus pour Button. Ouais. Et là, c'est Whitmarsh, je crois, qui a expliqué que dans ces cas-là, c'est soit tu te laisses dépasser, tu te tranches sur le côté, soit tu vas plus vite. Sauf que Hamilton savait très bien qu'il avait les moyens d'être suffisamment rapide. Mmh. Donc il s'est dit,
plutôt que de
me laisser derrière d'être derrière Button et de le faire chier, je vais aller devant. C'est peut-être un peu son tort, c'est-à-dire qu'au début de course, il semble vouloir abandonner, il a plus envie de faire la course, et à la fin, il se dit, je vais quand même la faire. Puis il faut pas se leurrer, le but du jeu, c'était aussi de faire le jeu de Button.
Ah ben, ça l'a fait, hein, d'ailleurs,
quoi qu'il arrive, voilà, ça l'a fait, quoi qu'il arrive, ça faisait le jeu de Button à ce moment-là. Mmh. Voilà, donc c'est bien joué, moi je dis, c'est finement joué, c'était malin, c'est dans les clous du règlement, il y a rien
d'illégal.
Voilà, de toute façon, c'est mécanique. Enfin, voilà, c'est dans le règlement, ils ont même pas besoin de préciser qu'un pilote peut pas reprendre. C'est que théoriquement, un pilote qui se fait prendre un tour, c'est un pilote qui est trop lent.
Oui.
Sauf que là, il se trouve qu'avec la règle des moments là, on a vraiment des voitures à des vitesses différentes à ce moment-là. Hamilton, il est le plus rapide en piste et compagnie. Mm. Il fait meilleur tour, c'est meilleur tour. Donc voilà, pendant ces quelques tours, à ce moment-là, il était plus rapide que les mecs de devant, et c'est à ce moment-là précis qu'il tombe, qu'il arrive au moment où il se fait prendre un tour. Donc forcément, il y a une conjonction d'événements qui font que ce cas est exceptionnel et qui se reproduira pas 15 milliards de fois dans l'année.
Je me souviens même pas d'une fois comme ça. Ça arrive que
les pilotes remontent,
mais c'est rare.
Après, c'est j'ai envie de dire, c'est des aléas de la course. C'est-à-dire que je comprends la frustration de Vettel. Là où il est peut-être le plus stupide, Vettel, dans ce qu'il déclare, et là où si je l'avais en face de moi, je lui dirais, écoute, là t'as été con, c'est de dire, oh bah oui, s'il voulait faire des tours rapides, il pouvait se mettre sur le côté, attendre d'avoir le champ libre et faire des tours rapides. Mm. Mais non, il voulait pas faire des tours rapides, soit pas bêta. Ce qu'il voulait faire, c'était te dédoubler pour essayer de faire le jeu de Button.
Il le faire chier, quoi.
Et c'est tout à fait naturel. Ben voilà, il voulait faire le jeu de Button en essayant de se dédoubler d'abord sur Vettel, puis de se dédoubler sur Alonso pour retenir un peu tout ce monde-là et voilà, faire le jeu. Et encore une fois, la différence, c'est que là on voit un Vettel qui réagit mal et derrière Alonso qui dit non mais moi je me serais laissé passer, c'est ce qu'aurait dû faire Vettel, mais derrière il s'est un peu excité, il a fait des erreurs et compagnie. Voilà, c'était pas nécessaire non plus. Enfin, c'est là où il manque effectivement de maturité, ce que lui a renvoyé dans la gueule d'ailleurs Hamilton en lui disant ouais bah il nous a montré son immaturité.
Et oui, il en remet une couche.
Passons à la 7e place. Il a marqué 448 points. D'ailleurs, on l'a tous les trois mis à cette place-là. C'est Michael Schumacher.
Le numéro 7. Sur sa voiture.
C'est vrai.
Et ben,
je crois qu'il a fini 7e de la course.
Oui, en plus.
Voilà. Et comme à Silverstone, je crois aussi. Hein. Il était aussi 3e sur la grille, ça fait exactement
le résultat. Quoi.
Un abonnement.
Voilà.
Lui, il estimait qu'il pouvait faire entre 5e et 7e.
Ah, peut-être.
On aurait préféré 5e, mais bon, on a
plus que 7e. C'est vrai qu'il est parti 3, et puis petit à petit, on l'a pas de beaucoup, mais petit à petit descendre.
Mais lui,
on a retrouvé la Mercedes.
Il a fait un arrêt de plus. C'était prévu, ça, ou?
C'était prévu, hein. C'était, mais c'est pour ça où c'est totalement artificiel. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a peut-être certaines personnes qui vont le juger en se disant, il a quand même été la lutte avec Raikkonen et compagnie. Très belle lutte d'ailleurs. Enfin, magnifique lutte avec Raikkonen. Ouais. Moi, j'ai vraiment adoré, revoir les deux en piste comme ça, c'était chouette. Mais en même temps, voilà, quand tu vois le scénario final et que tu dis, il était sur 3 arrêts, tu peux pas t'empêcher de te dire, bon, d'accord, il était certes à la lutte devant, mais il était sur 3 arrêts, quoi, donc. Et c'est vrai que c'est dommage parce que il y a peut-être un petit problème dans la stratégie parce que il revenait très fort sur la fin. D'ailleurs, c'est comme ça qu'il fait le meilleur tour.
Oui.
La preuve que les meilleurs tours ne veulent strictement rien dire.
C'est clair.
Parce que les autres étaient un peu plus en délicatesse avec leurs pneus. Enfin, on avait Button devant, mais apparemment le pilote Sauber aussi était en délicatesse et compagnie. Et il revient super fort derrière.
Ouais,
enfin,
il a failli refaire le coup de Valence.
Ouais. Voilà. Et là, ça a pas marché parce qu'il manquait il manquait des tours et peut-être que la stratégie a été mal emboîtée, ce qui fait que les appels ont peut-être pas été faits au bon moment. La chute des pneus était peut-être pas aussi importante que ce qu'ils entendaient. Bon bah, ça arrive. Hein.
Ça fait quand même pas mal de grands prix de suite là qu'il est quand même plus performant que Rosberg, hein, pour quand même le souligner.
Mais globalement, depuis le début de saison, il est plus performant que Rosberg.
Sauf en Chine, c'est mal tombé.
Oui, quoi. Voilà.
C'est tout. Oui, mais voilà.
Rosberg, je veux dire, à part la Chine.
Lui, Monaco, il était pas mal, mais après.
Dans ce cas-là, passons à la 6e place. Il a marqué 488 points.
C'est Felipe Massa.
Non.
Non, mais je déconne.
Mais C'est très intéressant que tu dises Felipe Massa.
J'avais pas vu le classement, mais effectivement.
Puisque, en effet, c'est Serge Pérez.
Serge.
Vivement le cinquième.
T'imagines pas à quel point je vais pouvoir retomber sur mes pattes. Que j'ai mis huitième, hein, comme toi Dino, et toi Steve, tu l'as mis huitième. On lui a donné 8 points.
Moi je l'ai mis cinquième, Pérez.
J'ai mis cinquième, donc 10 points.
Parce qu'en fait lui, il avait aussi une pénalité sur la grille, il partait assez loin, et puis il a quand même eu une belle remontée, hein, avec quand même une voiture qui est performante en course, la Sauber, et c'est dommage qu'il puisse pas partir plus haut, quoi. Donc peut-être en Hongrie avec un arrêt de moins, je sais pas, on verra. Ça s'ouvrira peut-être pour lui.
Et toi Shinji?
Moi je l'ai mis...
J'ai l'impression sur la course de Pérez.
Je l'ai pas beaucoup vu en fait, je l'ai mis avec Kobayashi parce que c'est la prestation d'ensemble des Sauber qui m'a...
Oui moi aussi, oui.
J'ai fait pareil.
Mais Pérez, il a fait combien d'arrêts? Deux?
Il a fait une stratégie normale par rapport à d'habitude.
Ouais. Et ben il finit quand même 20 secondes devant Weber. Hein. Donc il y a quand même une belle course, hein, quand même.
Ah oui.
La Sauber, elle marche bien. Hein. Ou Weber marche pas, je sais pas.
Surtout moi, ce que je suis très content, c'est à la fois Pérez et Kobayashi, on va un peu anticiper. Il y a des déclarations de journalistes. Il y a Stéphane Vrignot, hein, sur Eurosport, mais il y en a d'autres aussi à l'étranger qui ont cassé du sucre sur le dos de Kobayashi, voilà. Mais aussi qu'on dit que Pérez faisait pas non plus le taf. Enfin, moi, je suis désolé, c'est quand même, ça reste aujourd'hui pour moi la meilleure saison de Sauber en bilan global.
Oui, oui.
Ils ont marqué 20 points ce week-end, deux podiums et compagnie. Enfin, voilà. Enfin, sincèrement, si ça c'est pas des bons pilotes et une bonne équipe. Voilà, c'est faut aussi que retenir que des mecs ont deux saisons dans les pattes et compagnie seulement. Enfin, voilà, Kobayashi, on lui demande d'être le leader de l'équipe, il a trois saisons seulement. Donc, voilà, faut aussi remettre un petit peu les choses dans l'ordre. Kobayashi, ça a jamais été un foudre de guerre non plus. On a voulu en faire un leader, il est peut-être pas tout simplement fait pour être leader, c'est peut-être le mec qui assure les points. Bon. Moi, je trouve qu'on est injuste avec cette équipe Sauber, en tout cas, ces pilotes Sauber.
On oublie que c'est des jeunes pilotes, hein.
C'est des jeunes pilotes, que c'est des espoirs et que, de toute façon, Sauber n'a pas les moyens de se taper aujourd'hui des top pilotes. Donc c'est soit des jeunes, soit des pilotes comme Kobayashi qui vont faire des coups, qui vont être réguliers, qui vont... voilà, on peut pas se plaindre de dire « Ah, Kobayashi, il a pas de niveau ». C'est Sauber. Ça surprend d'ailleurs tout le monde que Sauber aujourd'hui soit en mesure de faire ses résultats. Et ils les font pas seulement que grâce à la voiture. Ah. Ils les font aussi parce que derrière, il y a des pilotes pour les faire ses résultats, que ce soit en qualif ou en course. Kobayashi a pour moi aujourd'hui fait une très bonne saison, en tout cas meilleure que l'année dernière, ou vraiment l'année dernière là, il était pas là, mais là cette année je trouve que Kobayashi fait une très belle saison et Pérez fait une splendide saison.
Oui, je suis d'accord.
Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur les deux, puisque finalement on parle des deux en même
temps? Sur les deux, justement, Kobayashi, il y avait déjà des rumeurs récemment qui circulaient comme quoi il serait remplacé, ou enfin
ouais, le nom de Kovalainen qui court,
voilà. Et donc je suis content quand même qu'il ait fait une belle course et qu'il mérite sa place en F1, hein. Il y a pas pour Kobayashi, tout comme Pérez, bien sûr.
Ah, tu l'as même mis troisième, hein.
Ah oui, ben j'ai voulu souligner parce qu'il finit quand même quatrième au global, il finit 5 secondes derrière Raikkonen, c'est bien, hein. Il a fait une belle course propre, il a fait une belle bagarre avec je sais plus qui à l'intérieur et après il s'est fait repasser, mais c'était joli. Dans le deuxième secteur, il a plongé à l'intérieur d'un un virage à gauche. Je crois que c'était avec une Force India, je pense, ou je sais plus. Il tente toujours des choses, moi j'aime bien. Il est moins brouillon que d'autres, voilà.
Oui, c'est pour ça que moi j'ai trouvé par exemple l'article de Vrignot sur Eurosport particulièrement injuste, parce qu'il le met un peu dans le même paquet que les autres japonais, sauf que sincèrement,
ah non, justement,
il y en a
non,
bien un qui tente en étant intelligent, en étant efficace, ça passe, et en étant malgré tout régulier. Enfin, c'est un mec qui est régulièrement dans les points. C'est bien Kobayashi, quoi. Donc, moi, je trouve que les critiques sont un peu dures, et surtout, faut pas poser la question sous l'angle de se dire le pilote il est mauvais, faut le virer. Non, c'est est-ce qu'il est assez bon par rapport aux objectifs et aux ambitions qui seront peut-être celles de l'équipe l'année prochaine ou en 2014. Là, effectivement, des profils comme Kovalainen seront peut-être plus en adéquation avec le projet futur. Mais enfin, c'est pas les performances des pilotes qui sont à mettre en cause.
Mais déjà, justement, Sauber, s'ils arrivent à se maintenir à ce niveau de développement jusqu'à la fin de la saison, ce sera super pour eux, hein. Je veux dire, parce que ça m'étonne déjà, à mi-saison, là, d'habitude, ils commencent déjà à plafonner, et ils sont encore vraiment dans le coup, là. Donc, peut-être en Hongrie, on aura peut-être une surprise, hein, je pense. Ça peut, ça peut le faire.
Tu crois à la victoire, toi?
Je pense qu'il y a, que Pérez, il sera sur le podium, je pense.
Parce que, là, en gré, oui, c'est un circuit.
Avec les pneus et puis le
chaud et puis le panier, ça peut être intéressant.
La course est longue et puis s'il fait son coup d'un arrêt de moins, là, on sait jamais, hein. Ce serait bien pour lui.
Alors, on va préciser pour, Ange Kobayashi, qu'il a donc été cinquième.
Ah bon? Moi, je parle pas japonais, moi, je sais pas.
Eh bien, sache que le nom Kamui a deux significations. L'une qui représente l'autorité de Dieu, l'autre qui chasse l'autorité de Dieu. Ça aide de lire des mangas.
Donc, il est combien, Kobayashi, du coup?
Donc, cinquième, il a marqué 573 points. Donc, tu l'avais mis troisième et nous, on lui avait donné plus de 10 points. Voilà. Et donc, en quatrième place, c'est le gros morceau de l'émission.
Mais non.
Oh. Déjà, c'est un gros morceau. Déjà le gros morceau.
Il a marqué 656 points. Je lui ai donné 12 points, comme Dino. Steve, tu lui en as donné 8. C'est Sébastien Vettel.
Ah oui.
La semaine,
ah oui.
Ça change pas.
Bah, comme j'ai promu les sauveurs, du coup, il s'est retrouvé sixième. Et puis, avec son dépassement, borderline, c'est le cas de le dire, du coup, oui. son jugement, pas que lui, puisqu'il aurait pu être conseiller, mais lui, ils sont courants quand même des règlements, je pense qu'il les brief, il aurait dû les passer, quoi. Et finir troisième, et il aurait eu combien de points de plus? 5 points de plus, on sait jamais.
Bah, c'est ça. Finalement,
ça, c'est, dans une saison comme ça.
La bêtise, pour moi, c'est pas tant qu'il fasse ça, parce que ça passe très
vite. Ça peut arriver encore.
C'est vrai qu'il n'y a pas forcément beaucoup de place derrière Button. Pour moi, la bêtise, c'est après. C'est pourquoi personne ne lui dit, mais rends ta place tout de suite.
Surtout qu'il y avait encore un tour, en plus.
Oui, lui-même a dit qu'il aurait sans doute eu le créneau.
Mais même Button le dit. Il a dit, il me laissait passer, il m'avait après, j'avais plus de pneus. Donc voilà, c'était une formalité.
Bah, c'est la patience, c'est comme Maldonado et Hamilton à Valence, quoi. C'est attendre le moment, c'est ça un pilote aussi, c'est le sentir le coup. Il aurait attendu un tour de plus à la fin, il aurait eu encore plus, j'allais dire, et régulièrement. Voilà.
Mais ce que je pense, la raison pour laquelle il a pas rendu sa place, etc., c'est que je pense tout simplement qu'il
pensait être dans son droit, Vettel.
Non, mais c'est-à-dire que pas nécessairement dans son droit, mais c'est vrai qu'il faut reconnaître que bon, le règlement a été précédé. Moi, Fab et Gus Gus en sont témoins. J'ai lâché le commentaire pour aller dire là un endroit où on discute tous ensemble avec les rédacteurs pour dire il a pas le droit de faire ce dépassement-là. Il faut qu'il soit pénalisé, tout simplement parce que la semaine dernière il y a eu une précision du règlement justement par rapport au précédent Hamilton. Donc, il fallait nécessairement qu'il y ait une pénalité. Maintenant, c'est vrai qu'il faut reconnaître que dans le règlement, il y a un aspect qui est pas précis, et je l'avais souligné lors du dernier MAC, c'est que ils disent clairement que ils encouragent les commissaires à juger en leur âme et conscience s'il y a eu gain ou pas. Et je pense que à la fois Vettel et Red Bull se sont dit, on va leur dire que c'était pour éviter l'accrochage et compagnie, donc c'est ses premières excuses. Voilà. Et puis derrière, on va leur dire que de toute façon, on n'y gagne rien parce qu'il avait ses pneus et compagnie. Donc je pense qu'ils ont joué le coup en disant, on peut plaider notre cause.
Ça n'a pas marché.
Et c'est là le problème, c'est qu'ils se sont mis dans un problème, ils sont mis dans une situation où ils prenaient le risque de prendre une pénalité. Là où, en rendant la place sur la piste et compagnie, ni Vettel ni l'écurie prenaient le moindre risque. Le moindre risque, c'était de prendre 3 places. Ils savaient très bien derrière qu'ils disaient que la seule pénalité qui existe, c'est la pénalité 20 secondes. Charlie Whiting l'a d'ailleurs confirmé en disant, c'est peut-être sévère, mais c'est la seule pénalité qui est à notre disposition en ce moment. Donc, ils savaient très bien que s'ils allaient devant le collège des commissaires, ils risquaient 20 secondes. Donc, dans ce cas-là, c'est pas la troisième place qu'ils perdaient, c'était la cinquième place. Donc, le vrai calcul à faire, le vrai truc professionnel à faire, c'était de se dire, soit on rend la place, on tente le truc et au pire on finit troisième. Soit on s'entête et de toute façon il y aura une investigation puisqu'ils ont précisé la règle. Et dans ce cas-là c'est pas au pire troisième mais c'est au pire cinquième. Donc automatiquement dans la tête, c'est pas de Vettel parce que Vettel il est au volant, c'est pas lui de réfléchir à ces choses-là. Mais dans la tête de Red Bull ça doit faire tilt et se dire le meilleur scénario c'est qu'on fasse au pire troisième. Et c'est ça aussi, je pense que il reste qu'un tour, c'est un petit peu trop de les équipes
ont
confiance dans leur capacité d'argumentation.
Vettel, il avait aussi les boules du coup d'Hamilton plutôt dans la course. Ça a joué aussi, par rapport à McLaren et tout. Mais bon, quand tu dis, je voulais éviter l'accrochage, il a quand même évité largement parce qu'il y avait quand même de la place à côté de Button en mettant deux roues sur le vibreur.
Mais non, mais voilà.
Donc,
ouais. D'ailleurs, au passage, et c'est une critique parce que c'est quelque chose finalement qui.
Oui, il y aurait des graviers.
Voilà, exactement. C'est-à-dire que voilà. parfois, il y a des critiques qui ont dit, oui, mais vous, la FIA, genre il y a 10 ans, ils auraient jamais mis une pénalité. Non, les gars, il y a 10 ans, il aurait fait ça, il serait passé dans un bac à gravier ou, dans le meilleur des cas, dans de l'herbe. Donc, il n'aurait pas doublé.
Parce que.
Il n'aurait pas doublé.
Il y a des virages à la rigueur extrême, comme par exemple à Pouhon en Belgique. Qui est du goudron à l'extérieur. Bon, le gars il va à l'extérieur, il revient, il perd du temps. Alors que là, comme à l'épingle la source en Belgique, si tu passes à l'extérieur, en fait, tu gagnes du temps. Et là, en accélérant plus large. À cet endroit-là, pourquoi il y a du goudron, franchement?
Oui.
C'est inciter les pilotes à passer à l'extérieur parce que c'est dans le dégagement de l'épingle, je veux bien, c'est normal. Mais là, à l'extérieur, pourquoi il y a du goudron? C'est débile, voilà. Bah, ils penseront à ça.
Mais maintenant, on fout du goudron partout, donc.
Ah oui, ça c'est une plaie, ça. C'est clair.
Mais après, voilà, il fallait. Enfin, moi, je dis ça à quelques fans de Vettel qui nous écoutent et qui trouvent ça peut-être injuste. Il faut punir, enfin.
Et si ça arrive à Spa, là, on est d'accord qu'il faudra que ça soit sanctionné.
Voilà. Mais au départ,
ils vont. Ils vont se marrer.
Est-ce qu'il y aura une exception?
C'est là peut-être pour le départ. Je sais pas.
Je sais pas. Et il y a aussi un comme ça. Je crois que c'est à Singapour, comme semble. Au départ, ils ont tendance à couper aussi. Hein. À Singapour, au début, c'est un gauche.
Oui.
Et après, il y a eu un enfilement, quoi. Et au départ, ça coupe aussi. Hein. On va rigoler aussi, là, je crois.
Mais c'est là aussi.
Faudra voir si c'est appliqué strictement.
Mais un peu dans la complexité.
C'est clair.
C'est-à-dire qu'ils disent, tu peux pas dépasser avec les quatre roues. Enfin, tu peux pas passer les quatre roues à l'extérieur et tirer un avantage. Tout en derrière, c'est ce que j'avais dit dans le dernier max, c'est tout en derrière disant ça reste à discrétion des commissaires. Il faut juste dire voilà, un pilote qui passe les quatre roues dans dehors de la piste et dépasse est pénalisé. Punto basta, le règlement il est clair, il y a même pas besoin, c'est-à-dire qu'ils ont éclairci le règlement.
Ils alambiquent toujours les choses.
Mais c'est surtout voilà, c'est-à-dire que c'est encore une fois, c'est alors que tu pourrais faire un point de règlement qui serait clair, que nous en tant que rédacteurs, on pourrait mettre dans les articles,
qui serait facile à expliquer aux non-initiés.
Voilà, l'article 20. Machin du règlement sportif dit que si tu dépasses et que t'as les quatre roues à l'extérieur, un pilote, eh ben t'es pénalisé. Ou si t'as amélioré ton temps dans le secteur en ayant les quatre roues à l'extérieur, t'es pénalisé. Alors que là, c'est dire, il faut d'abord qu'on comprenne le truc des commissaires parce que c'est les commissaires qui jugent. Et derrière, on muselle les commissaires puisqu'on sait très bien, on a des exemples de commissaires qui disent non mais ce truc-là, j'ai pas le droit d'en parler, je suis tenu au secret, et compagnie. Donc même les commissaires peuvent pas expliquer pourquoi ils donnent la pénalité. Faut faire un truc tout simple.
Enfin, dans ce cas-là, la pénalité est appliquée normalement, quoi.
Est-ce que il paye pas aussi ce qui s'est passé le matin même?
Ah, j'ai pensé aussi ça, oui. C'est-à-dire que en étant dans le collimateur.
C'était dans le collimateur. Hein.
C'est-à-dire il.
Parce que
quand
le...
ça joue à rien, là, ça a basculé la balance. Quoi.
Le communiqué de la FIA sur cette affaire de cartographie, mais il est à mourir de rire.
Mais j'ai pas vu ça. Pourquoi? Précisément, mais
je l'ai. Les commissaires ont rencontré les représentants de l'équipe et un responsable du motoriste Renault.
Ouais.
Même si les commissaires n'ont pas accepté tous les arguments de l'équipe, ils ont conclu que, telle que la réglementation est écrite, la cartographie moteur ne contrevenait pas au texte de l'article 553 du règlement technique de la Formule 1 et a donc décidé de ne pas aller plus loin. Je suis peut-être mesquin, mais j'ai l'impression que d'une façon très polie, il est en train de dire Adrian Newey et Renault, ils nous ont entubés. Il y a un trou dans le règlement et on peut rien dire.
Ce que je trouve vraiment mesquin dans ce communiqué, c'est de dire, comme tu dis, effectivement, là, on s'est fait baiser. Alors qu'il suffirait juste de faire un communiqué, effectivement, ça a des manquements et on va résoudre ça, on va en discuter parce qu'effectivement, ça a des manquements. Mais la voiture en l'état est légale. Là, non, ils sont clairement en train de dire, il y a des arguments qui nous ont pas plu. Mais ça, les discussions, on n'a rien à dire. Tout ce qu'on a besoin de savoir, c'est que en l'état du règlement,
il devrait y avoir une clarification.
La voiture, elle était légale.
Ils vont la faire.
Après, il faudra peut-être discuter. C'est ce que dirait Bull. Faut peut-être en discuter. Mais en l'état du règlement, tout ce que doit dire la FIA, c'est que la voiture, elle est légale. Point barre. Parce que du coup, c'est vraiment mettre dans la tête des gens que la voiture n'est pas légale. Non, la voiture, elle est légale. C'est juste votre règlement qui est mal foutu. Alors, ça va pas dans l'esprit du règlement, mais on a déjà vu par le passé la FIA de donner raison à des appendices aérodynamiques, genre double diffuseur, qui a été pas dans l'esprit du règlement, mais bon, ça les arrangeait quand même.
Il y avait beaucoup de politique derrière.
Voilà.
Oui.
Donc voilà, c'est toujours un peu pénible ces histoires-là.
Mais ce que je me demande, c'est si ça concernait une autre écurie, est-ce que ça aurait fait tout ce point? Ça, je suis pas sûr. Il y a quelque chose, Red Bull toujours un peu sulfureux, quoi.
J'ai envie de dire, si ça avait été Ferrari, ça aurait été pareil, à peu près, hein. Ferrari, ouais. Red Bull, McLaren, voilà, ça aurait été dans le même lot. Après les autres, ça aurait peut-être fait un peu moins de fond.
Mais c'est, encore une fois, je pense qu'il y a beaucoup de politique derrière.
Ah bah, toujours, hein. De toute façon, la F1,
c'est la seule équipe qui s'oppose véritablement à l'influence de la FIA sur la réduction des coûts.
Oui, il y a ça aussi, oui.
En plus, c'est l'équipe qui domine depuis deux saisons, donc il y a l'influence de Bernie qui pousse certainement pour que Red Bull domine moins. Voilà, il y a énormément de politique. On en a vu des cas l'an dernier avec, la politique, enfin,
les diffuseurs soufflés, là.
Les diffuseurs soufflés, etc. Donc voilà, aujourd'hui c'est eux. Et puis en même temps, Red Bull joue très bien la victime, et ils adorent aussi être dans cette position-là. Voilà, enfin toutes les équipes l'ont fait. Il y a des périodes. Là, c'est la période contre Red Bull.
Sinon, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur la course de Vettel? Parce que la course de Vettel ne se résume pas non plus à son 66e tour.
Ah. Non. J'ai trouvé un peu à la peine.
Il paraissait très bien à un moment, en début de course, je pense, jusqu'à la moitié, et après, ouais.
Il a été derrière Button.
Après l'arrêt éclair de Button, et ben il s'est retrouvé derrière, et après je crois qu'il avait plus il bénéficiait plus du DRS derrière Alonso par rapport au début, et donc il perdait petit à petit, quoi.
Et il était à l'attaque, il était très agressif. Des trois devant, c'était celui qui semblait le plus se battre avec sa voiture en piste. Vraiment dans les.
Et on l'a vu après, après quand il s'est retrouvé derrière Button, on l'a vu faire quelques excursions hors piste. Ouais, c'est ça que tu dis. Ouais.
Donc j'ai vraiment l'impression qu'il a dû peut-être un peu forcer sur la voiture pour tenir. Quoi. Alors est-ce que c'était l'énervement,
surconduisait un petit
peu, la voiture était moins bien.
Même en surconduisant, on peut imaginer qu'il aurait pu finir deuxième ou troisième. C'est quand même... Voilà.
Mais bon, là, il perd un podium. Voilà.
Bêtement, bon. Voilà.
ça arrive à certains, ça arrive à d'autres jours.
Et c'est comme ça qu'on apprend aussi.
Voilà, c'est clair.
C'est là où on voit la différence, et c'est ce qu'on attend de voir de Vettel, c'est qu'il y a plus que même avoir une voiture difficile, c'est qu'à voiture égale, on voit aussi même plus que le talent, c'est l'expérience. En face, il est tombé sur Red Bull et Vettel, ils sont derrière des mammouths de l'histoire de la Formule 1, des gens qui connaissent la Formule 1 et qui ont cette expérience-là, et des pilotes qui sont champions du monde, qui ont 10 ans de Formule 1 derrière eux. Voilà, c'est dans ces moments-là qu'on se rappelle que Red Bull est une équipe géniale, vraiment dans tous les secteurs, ils ont vraiment été brillants l'année dernière. Ils le sont encore cette année, mais que ça reste une équipe jeune.
Allez, on va passer au podium avec en troisième place. Je crois que même lui, au niveau du classement, il a beaucoup bénéficié de ce qui s'est passé au 66e tour. Il a marqué 822 points. Steve, tu l'as mis quatrième. Moi, je l'ai mis troisième. Dino, tu l'as mis deuxième.
Ben oui,
c'est Mathias Raikkonen. Oui, parce que là, t'as beau.
Ah, mais c'est son deuxième prénom.
C'est son deuxième prénom.
Ah, sauvé des clous, là.
Moi, je veux le français de Kimi.
Kimi, ouais.
Tu te démerdes, j'en ai rien à faire, je veux le français de Kimi. Je ne te le lâcherai pas, je te dis.
Bah, Raikkonen, oui, je l'ai mis quatrième, parce qu'en fait, j'hésitais avec Kobayashi, puis j'ai voulu souligner la belle perf de Koba. Alors, Raikkonen, il était quatrième, en fait, sur la piste, et puis voilà.
On l'a vu à l'attaque.
Donc, il était quand même plus saignant que précédemment, quoi.
Ouais, c'est vrai.
Bon, déjà au calife, ça a été un peu difficile sous la pluie,
ce qui m'a rassuré aussi, c'est le travail qu'il a fait en vendredi, surtout vendredi, samedi.
Ah, avec leur super appendice.
Alors attention, sans doute que dès la Hongrie, ça sera le tour à Romain, mais vu par rapport à ce qui a pu être dit sur les relations entre Kimi et tout ça, on voit que il y a quand même la confiance du fait qu'on lui a donné des choses à préparer. Apparemment, il a beaucoup bien travaillé d'ailleurs.
Il est régulier, Raikkonen, parce qu'il est, je crois, il est quatrième maintenant au championnat. La régularité, ça paye, hein, quand même.
Il est très régulier.
S'il gagne une course, il va.
Il manque quelque chose à la bus, mais il est très régulier.
Ça va arriver dans combien maintenant? Deux grands prix. Ça va arriver. Raikkonen à 3, il va gagner.
Je pense qu'il va gagner. C'est déjà qu'il est mon.
En tout cas, il sera pas loin. Non, Raikkonen, je suis content quand même de sa course.
Non, tu veux pas en parler, Dino?
Ah, excuse-moi, j'ai pas entendu ta question.
Je dis, tu l'as mis deuxième.
Pour faire plaisir, je dis.
Gentil.
non, parce que, alors, même moi, je comprends pas dans le classement qu'on sépare, qu'on mette un pilote entre Button et Vettel. Sur la course, au-delà même des polémiques et compagnie qu'il peut y avoir sur Vettel, sur la course, j'estime que Button et Vettel font l'un l'autre une aussi bonne course. et qui a strictement rien à dire, voilà, s'ils se retrouvent à se battre en deux, à la, tous les deux à la fin, c'est, voilà, je trouve qu'en termes de performance, ils étaient tous les deux là. Donc moi, Raikkonen, c'était soit il était deuxième devant ces deux-là, soit il était quatrième derrière ces deux-là. Et ce qui a fait la différence, c'est que d'abord, il est pas si loin que ça, et puis il a montré des choses dans le sens où il a été incisif, il a été opportuniste quand il fallait. Enfin, je sais plus qui il dépasse. Je crois que c'est Hülkenberg qui dépasse.
Ah oui, c'était pour
en se faufilant derrière Schumacher ou Button, je sais plus, dans la nouvelle portion après l'épingle. Donc voilà, j'ai vraiment sur l'ensemble du week-end, j'ai retrouvé un Kimi un peu plus à sa place aussi. Alors peut-être valorisé aussi par le fait que Grosjean connaissait un week-end de merde, mais un peu plus à sa place. Donc j'aimerais voir un week-end un peu plus normal pour Grosjean pour pouvoir comparer. Et sur la course, moi j'ai trouvé vraiment offensif, incisif, rapide et tout ce qu'il fallait. Donc je me suis dit allez, je vais le mettre un peu devant, surtout que j'ai pas toujours été super tendre avec lui jusque là cette saison. Donc là vraiment il m'a plu, donc je me suis dit je vais le mettre devant. Mais sincèrement, je l'aurais pas mis entre Button et Vettel ou entre Vettel et Button, parce que voilà, je trouve que les performances de Vettel et Button s'équivalaient et que ça méritait pas de d'avoir un pilote intercalé. Et maintenant, on parle du deuxième et surtout du premier.
Oui, allez. On va quitter Kevin Raikkonen. Désolé, hein, des noms en K, c'est compliqué, hein, des noms français en K.
Non, on veut l'équivalent de Kimi.
Et ah, Kevin, c'est pas français, si, non?
On s'en fout, tu trouves, je dis.
Et c'est Steve qui dit ça.
Ah, ce sera pas cette semaine, alors, hein, parce que...
Bah, tu chercheras.
Kimi, c'est du finlandais.
Tu le fais dans la langue du Grand Prix, hein.
Tu fais des études de finlandais, tu te débrouilles, j'en ai rien à faire, mais tu cherches l'équivalent réel en français. Voilà, comment les gens, ils appelleraient leur fils.
Mais tmh. Tu sais qu'il y en a peut-être pas.
J'en ai rien à faire.
Ça commence peut-être par un C, l'équivalent.
Tu t'es lancé dans un défi, tu te trompes. T'as réussi à dans un tour loupé avec Kamui, mais là, tu nous en souviendras pas. Tu fais la linguistique, j'en ai rien à faire, tu te débrouilles, mais je veux l'équivalent français de Kimi.
On va passer à la deuxième place. Il a marqué 1041 points. Je l'ai mis deuxième, hein, comme Steve. Dino, donc tu l'as mis troisième, hein, tu l'as expliqué. C'est donc Jean Bouton.
Ah, oh, là, je mets tout. Change.
Oui, mais là, Jensen, c'est trop de Jean... Button, Bouton. Quoi?
Jensen, c'est Jean?
Alors, pour être précis, c'est fils John. C'est fils de Jean.
C'est fils de Jean.
Voilà, parce que c'est un dérivé anglais du scandinave Jensen.
C'est petit Jean.
Yes. Voilà, donc c'est Jean Junior.
Oui, à la limite, oui, on peut dire Jean Junior Bouton. Mais,
non, Button. Non, je dis parce que, méfie-toi, si tu dis Bouton, derrière, je vais te demander Raikkonen, l'équivalent français.
Mais là, tu veux pas, c'est les noms de famille.
J'en ai rien à faire, je dis, tu fais un truc, tu le fais à fond.
Alors, Jean Junior Button.
Ah. Bah, Button, oui, la McLaren, elle est quand même revenue aux affaires, on dirait, hein, là. Enfin, on dirait. Oui. Elle est revenue aux affaires.
Lui.
Mais bon, Hamilton, ouais. Je pense qu'Hamilton, s'il avait fait un bon début de course sans la crevaison, il aurait pas été loin de ces deux-là, hein. Il y en aurait une bataille à quatre, peut-être.
Bah, on a eu une bataille à quatre.
Ah. Dans le même tour. Ouais. Non, mais Button, c'est comme Weber, quoi. Un coup c'est un coup c'est l'autre. Ils peuvent jamais être là les deux, non? Je sais pas. Par contre, ses pneus n'ont pas tenu à la fin, par contre, apparemment. Si c'était plus une surprise de la part de la McLaren, mais bon.
Mais c'est rigolo quand même comment la Formule 1 va vite, et surtout cette année, quoi. Il faut quand même se rappeler, il y a encore 5 jours, Button, il était sur le déclin.
Pré-retraité.
Pré-retraité, enfin voilà, il y avait des unes de magazines qui l'envoyaient à la retraite, est-ce que c'est l'année de trop et compagnie. Le nouveau Massa, j'ai vu ça sur un truc américain.
Massaïs.
Le nouveau Massa.
Ce Massaïs.
Voilà. Non, c'est juste qu'il a eu des difficultés avec la voiture, voilà, et là, il nous montre, bah, que voilà, que quand la voiture, elle marche bien, qu'il a un week-end tranquille et compagnie, ce qu'il a pas tout le temps eu ces derniers Grands Prix, il a un week-end tranquille tout, bah, voilà, il est performant, la voiture, elle est un peu plus performante parce qu'ils ont apporté des nouveautés, ça lui convient peut-être aussi un peu mieux en matière de pilotage.
Je pense qu'en course, c'était la meilleure voiture, hein, je crois. Non. Parce que, par rapport au début de course, il est remonté, il a peut-être, je sais pas, 8 secondes sur Alonso et Vettel, et il est remonté à la fin finalement, donc en rythme, il était meilleur, je pense, non?
Peut-être, ouais. C'est ça aussi qui est un peu perturbant, c'est que,
oui, on a plus de repères, quoi.
Voilà, on a plus de repères. Et c'est le cas de Button, quoi. C'est que tout le monde a commencé à lancer des analyses sur est-ce que Button est fini et compagnie. Alors qu'en fait, bah, c'est peut-être juste tout simplement, c'est qu'il a pas la bonne voiture au bon moment, quoi.
Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que l'ensemble voiture-pilote, quoi. Le pilote devient pas mauvais. S'il s'habitue pas à tel réglage ou tel feeling, ça le fait pas, quoi. Ça se voit parce qu'en fait, le peloton est très très serré, quoi. Et donc du coup, peut-être l'année dernière, quand il y avait une demi-seconde de moins pour une équipe, ça leur faisait perdre une place, alors que là, c'est peut-être 8 places, quoi. Donc du coup, comme Button, qui était derrière les Sauber, derrière les Williams, Alors que là, si ça va mieux, tac, il est redevant, quoi. Mais c'est passionnant aussi, parce qu'on, en fait, les grands prix sont ouverts, mais d'une façon que j'ai jamais vue, moi, hein, depuis 15 ans que je regarde.
Je pense que c'est ça qui rend plus passionnant la saison, plus que le spectacle ou que l'imprévisibilité des courses. C'est le fait que vraiment ça nous pousse à avoir une analyse sur la F1 qui est vraiment une analyse plus profonde. Et je pense qu'effectivement, ceux qui ont découvert la F1 ces dernières années vont apprendre énormément de choses sur la F1 cette saison, des choses que des gens qui ont 15 ou 20 ans de F1 derrière eux comprennent déjà, analysent déjà tout en sachant l'importance, mais là cette année c'est criant, quoi.
C'est clair. Et puis bon, les meilleurs finissent toujours par sortir du lot, hein, je pense.
Bah là on le voit.
On le voit, ça se voit. Alonso, il a pas de week-end sans, hein. C'est
quand même incroyable.
C'est incroyable.
Voilà, qui on retrouve devant, même s'il y a eu Lotus et Mercedes qui ont fait illusion depuis le début de saison, on retrouve quand même devant les trois équipes des 3-4 dernières années, quoi.
Oui, depuis 2010.
Bah justement, dans ce cas-là, passons au vainqueur.
Ah.
Bravo.
Alors, passage.
Italia.
Passage. J'ai trouvé. Kimi est la forme diminutive de Kim, qui lui-même est la forme raccourcie de Joachim. Donc, Joachim Raikkonen.
Ah, j'ai pas pensé à la forme.
Bravo, j'ai dit. Bravo.
Donc, tu auras droit. Il a gagné. Il a marqué 1503 points. On l'a tous les trois mis premier. C'est Fernand. Là, ça fait mal quand même. C'est Fernand Alonso.
Bah, qu'est-ce qu'on peut dire de plus que...
Oui, voilà.
Sa 30e. Puis si dimanche il le refait, ça fera 31 le jour de ses 31 ans.
Oui,
ça serait joli quand même, gagner le jour de son anniversaire. Ça doit pas être souvent, hein. Faudrait faire des recherches, mais bon. Non, mais sinon il a quand même, pour être honnête, bénéficié de la qualif sous la pluie, parce que si la qualif s'était fait sur le sec, il serait parti, je pense, deuxième ou troisième, et on n'aurait pas eu la même course.
Ouais.
Oui.
Honnêtement.
Et puis bénéficier.
Mais bon,
c'est lui. Très beau départ.
Ah oui, le départ.
Au départ.
Magnifique départ.
Voilà, au départ, au premier virage, il a quasiment 30 ou 40 mètres d'avance sur Vettel. Parce que Vettel est très lent au départ, se retrouve rapidement sous la menace de Schumacher. Il y a une petite bataille avec Schumacher, entre Schumacher et Vettel, mais qui dure pas longtemps.
Oui.
Puis Vettel reprend sa marche en avant et revient assez vite sur Alonso. Donc voilà, on se dit si Vettel fait un meilleur départ, c'est pas garanti que la course, ça soit aussi tranquille pour Alonso.
Pas tranquille, il a quand même eu des poursuivants tout le long, hein.
Le premier relais d'Alonso est quand même relativement peinard.
Plus aéré, ouais. Ouais, ouais. Mais il avait quand même, surtout à la fin de course, finalement l'impression de contrôle, quoi. C'est-à-dire qu'il avait bien, de toute façon, il pouvait que le doubler que à l'épingle. Il savait très bien que sauf retardataire ou problème quelconque, normalement il passait pas, quoi.
Mais ce qui est hallucinant, c'est qu'à la fin, il y a une communication radio.
Ah oui, mais là, j'ai adoré ce moment. Désolé si je te coupe, mais d'habitude, c'est plutôt l'ingénieur qui rassure le pilote. Genre, c'est bien. Par exemple, on entend Hamilton, t'as fait du beau boulot dans ce secteur. Vas-y, c'est bien. Mais Alonso, c'est lui qui rassure son équipe, quoi. C'est terrible.
Il y a Andrea Stella qui lui dit, Vettel est à une seconde de toi. Et là, t'as Alonso. Alors, t'imagines Alonso à son volant. Et il dit, les gars, je sais que c'est dur, mais restez tranquilles. Tout va bien.
Ah ouais.
C'est énorme. Et là, tu te rappelles aussi que Alonso, c'est un mec il y a deux ans. Moi, je me rappelle il y a deux ans, la fameuse affaire d'Hockenheim, où on se rappelle, je crois que c'est Silverstone juste avant, où il marche comme pas possible sur l'équipe, où il est brusque.
Il leur a dit de ne parler
qu'à la radio. On a des communications radio où il les envoie clairement chier.
Ah oui.
Et où effectivement, moi, je reste convaincu que l'histoire d'Hockenheim lui a permis de comprendre aussi ce que ça impliquait d'être chez Ferrari et qu'il n'avait pas forcément besoin de prendre aussi vivement Ferrari. Et aujourd'hui, on voit un mec, mais c'est la métamorphose par rapport à 2010, quoi. C'est le mec, il est là, il est au service de l'équipe, il la console, il l'encourage et compagnie. Mais c'est juste, on avait eu qu'une peur au début de saison, c'est de se dire, mais Ferrari va en prendre plein la gueule.
C'est l'osmose.
Et en fait, non, quoi. Il les a portés avec eux et aujourd'hui, c'est lui qui les rassure et tout.
C'est la mayonnaise a pris, quoi. Enfin, en tout cas, il a bien contrôlé. Et puis, que dire de plus sur sa course? Je sais pas. Moi, j'ai surtout aimé sa qualification, en fait. Ça m'a ébloui.
Mais à la fois la qualif et la course, c'est-à-dire que c'est encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est l'expérience.
Et il s'est tiré profit des conditions de piste, etc.
C'est pas une course qui est, il domine pas et je reste quand même convaincu qu'il a pas la meilleure voiture. Et c'est vrai qu'aujourd'hui pour un jeune pilote, si tu veux lui conseiller de regarder un pilote, tu lui dis, regarde Alonso, regarde les courses d'Alonso. Pas, mais même, je pense, c'est même au-delà même de, d'être partisan ou quoi que ce soit, c'est juste que, aujourd'hui, avec Schumacher, c'est peut-être l'un des rares mecs qui a la science de la course, mais dans quasiment tous les secteurs.
Ah oui, mais
c'est ce qui fait sa force, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il est super malaise, quoi.
Il a toutes les cartes dans son jeu, quoi. C'est... Alors que certains pilotes, ils leur manqueront une ou deux cartes, quoi. C'est terrible.
Oui. Ça s'acquiert. Il y a le talent intrinsèque, ah bah même, et ça s'acquiert avec l'expérience, les difficultés, avec aussi
les saisons avec les mauvaises voitures aussi.
Voilà. Ouais.
Savoir gérer le trafic, savoir gérer. C'est
Hamilton, il est en train peu à peu, je trouve, de l'acquérir tout ça. Il est en train peu à peu.
Ça serait bien qu'il change d'équipe, lui, comme ça, il pourrait encore mieux voir, je crois.
Voilà, c'est le prix de l'expérience, quoi, tout simplement.
Ça, c'est clair.
Et moi, c'est ce qui fait que j'aimerais qu'il soit champion cette année, pas tant parce que c'est Alonso ou Ferrari, mais parce que ça serait une tellement belle réponse au titre de l'an dernier de Vettel, enfin au titre des deux dernières saisons et de Red Bull, qui sont les titres de la jeunesse, de la fougue, de la créativité. Que moi, j'aimerais bien voir un titre d'un baroudeur, quoi.
D'un gars qui a plus de 30 ans, quoi, en fait.
Voilà, un mec qui a plus de 30 ans, d'un mec.
C'est pas arrivé, ça fait longtemps hein, que. Le champion, ça doit être Schumacher, je pense. Rien, travail, ouais. Parce qu'ils avaient tous 26, 24, 23 pour Vettel. Hamilton, il avait Button, pas 30 ans.
Non, c'est Button.
Ah, il avait non, il avait 29 ans. Hein. Ah. Button, ça fait longtemps qu'il est là, mais il a commencé jeune. Hein.
C'est vrai.
Button, je crois qu'il il est de 80, je crois.
Ouais,
il a 29 ans, ouais. Mais il est ridé. c'est ça qui nous fait. Mais non, mais il a commencé à 20 ans, et puis en fait, ça fait 12 ans qu'il est là, mais il a 32 ans, Button. Hein.
C'est vrai, oui.
Et c'est vrai que du coup, j'aimerais bien cette année avoir.
Ce serait pas l'accomplissement de sa carrière, mais une sacrée, un magnifique titre, quoi, ce serait.
Là, au classement, ça creuse.
Là aussi, oui.
Puisque Alonso est premier, avec 163 points. Et alors, par contre, ça s'est resserré, hein, puisqu'on a Raikkonen 108, Vettel 107, Weber 103, Hamilton 100.
Donc, Alonso sera encore en tête dans le classement du SAV après la Belgique.
Voilà. Et Grosjean, noté, donc, il est juste derrière à 87. Aux équipes, Red Bull 210, Lotus 195, Ferrari 188 et McLaren 168. Dans l'autre classement, alors j'ai regardé, c'est bien Schumacher, le dernier au-delà de 30 ans, parce que Button avait 29 ans et Raikkonen 28.
Oui.
Donc dans l'autre classement, Alonso 154, Weber 120, Vettel 110, Raikkonen 98, Hamilton 92. Notez que Rosberg est encore 6e, 76.
Oui, lui, il a la moitié des points d'Alonso, Rosberg, quand même.
Oui, quand même.
Ouais.
Donc,
Chez les constructeurs, Red Bull 230, Ferrari 177, McLaren 160, devant Lotus 159.
Ce serait bien que Massa marque des points, là. Ouais.
Donc Alonso, quand même, 34 points devant Weber, 44 devant Vettel. On est à mi-chemin. Ça peut encore beaucoup changer, mais il y a quand même un petit matelas, maintenant. L'effet marquant, maintenant. Donc, quel était, selon vous, le fait marquant du Grand Prix de Grande-Bretagne? Vous avez été 91 à voter. Merci de même. Merci à tous ceux qui ont donné leur top 10. Est arrivé 3e, 10 votes. Le dépassement de Bruno Senna au culot, 10,99%.
On avait dit ça?
Non, c'était le guest. Strasti. 20 votes. Incroyable, Weber gagne sur le sec, 21,98%. Je suis étonné.
Tu vois.
Mais je suis étonné parce que je pensais que tu vois que ça serait soit tout bon, soit que ça serait dernier.
Il faut dire que j'ai pas compris la phrase le premier coup que j'ai lu. Tu lui dis pourquoi Weber gagne que sous la pluie, j'ai pas.
Mais non.
Tu vois, il y avait trop de risques. T'as pas choisi, Sylvie. T'as refusé de choisir. Résultat, c'est une branlée.
C'était pas assez clair.
Et enfin, premier, 61 votes, 67,03%, la confirmation Ferrari et Alonso. C'est donc à Steve.
Je peux pas dire ça, alors. Alors, qu'est-ce que je vais dire?
Ça devient une habitude.
Qu'est-ce que je vais dire?
Voilà. Tu peux dire, Alonso prend des habitudes.
Avant, c'était déjà Alonso en Espagne, qui a gagné, donc.
Je peux pas faire un truc dans le genre, alors.
Tu peux, mais c'est facile.
Non, je vais pas faire.
En même temps, facile, il a le premier choix. Tu peux faire des trucs faciles, si.
Oui. Attends. Vettel et Red Bull dépassent les bornes, dépassent les limites. L'histoire des cartographies et puis Vettel hors piste.
Bon, allez, je vais céder à la facilité. Alonso fait le trou au championnat.
Oh, il est trop facile, celui-là.
et moi, je dirais, un grand prix anonyme pour Romain Grosjean.
Ça a calmé les commentateurs de TF1, déjà.
Donc, cette semaine, comme fait marquant, nous vous proposons Alonso qui fait le trou au championnat. Un grand prix anonyme pour Romain Grosjean ou bien Vettel et Red Bull dépassent les limites. Pour voter, c'est sur l'article du SAV de la F1, donc c'est sur le site fan-f1.com, c'est juste en dessous du podcast. Et normalement, vous avez peut-être même déjà voté. Dino.
Rappelons, vous avez qu'une semaine pour voter, hein, jusqu'à mardi prochain, puisque le Grand Prix de Hongrie, c'est ce week-end, c'est après-demain.
Dino va passer au concours.
Oui, le concours top pas position.
Le service après-vente de la F1 vous présente le concours top pas position. Franchement, si vous avez compris les règles, vous êtes déjà un champion.
Alors, la question était la suivante. Elle était proposée par Gus Gus. Épeler correctement Deutsch Vermo Gensch Beratung.
Donc l'écrire.
Voilà, donc fallait l'écrire.
Il y a des trémas.
On a reçu.
Oui, il y a des trémas, mais il y en a combien? Il y en avait.
Il y en a qu'un seul.
Un seul? Ah.
Donc c'est D-E-U-T-S-C-H, espace, V-E-R-M-O, tréma, G-E-N-S-B-E-R-A-T-U-N-G. Voilà. Alors, à noter qu'on a eu plusieurs réponses, on en a eu 4 au total, mais je vais me permettre d'en lire une.
Est-ce qu'on sait au moins ce que c'est que...
Alors, justement, on a une explication. Alors, je vais citer hein, la réponse, les questions étant mélangées, on peut citer. C'est la réponse de d'Alexane. Qui a vécu en Allemagne, donc du coup elle peut nous en reparler, et qui a participé à une émission cette année. Et donc voilà la question. Voici donc ma réponse à la question de la dernière émission, qu'il me sera évidemment inutile de réécrire. Le fameux sponsor affiché sur la casquette de Schumacher est Deutsch Vermogensperatung. À la française, ça pourrait donner Deutsch Vermogensperatung. Là, c'est parce qu'elle l'écrit, donc du coup... Mais depuis, j'ai appris à prononcer. J'ai quand même envie de compléter ma réponse. C'est une entreprise nationale qui travaille en partenariat avec des banques et des assurances allemandes et qui forme des managers financiers qui deviendront ensuite indépendants et conseilleront des clients en termes de plans financiers en fonction des vœux et des objectifs de ces derniers. Ainsi, on peut obtenir une explication approximative en traduisant le nom Vermogensberater, qui signifie conseiller des biens, et Deutsch, qui signifie allemande. Les managers ne seront pas rémunérés par le client, mais par les banques et assurances partenaires, d'où la collaboration entre ces derniers et le sponsor de Schumi. C'est un concept encore complètement étranger en France, mais qui a fait son apparition en Suisse et en Autriche. Donc si vous n'avez jamais entendu parler d'une telle chose, ce qui était mon cas avant de faire mes recherches, je vous rassure...
C'est normal.
C'est tout à fait normal. Donc voilà. Donc apparemment en fait c'est un conseiller bancaire et financier.
C'est un intermédiaire voilà entre les sociétés voilà. Et les banques et assurances.
Voilà donc je dédicace cette réponse à Steph Kerr. Et donc Shinji, je vais te proposer les 4 réponses en vérifiant que Steve qui est un participant régulier.
Ah là ce coup-ci j'ai fait là parce.
Voilà.
Pourtant, c'était donc, facile, hein.
Pour être neutre.
Oui, je vois, oui. Donc, tu pourras aider Shinji. Oui. Shinji est très content dans ces cas-là parce que ça lui retire un peu de pression.
C'est vrai.
Ouais. Donc, alors, une première question. Quelle est la spécialité hongroise que Zsolt Baumgartner, le magnifique pilote Jordan en 2003 et Minardi en 2004, a au moins mangé une fois dans sa vie, où l'on fait cuire de petits morceaux de viande, de bœuf, de porc ou de veau et des légumes, oignons, poivrons, dans le sein doux, l'huile ou le beurre? Putain, la vache. C'est chaud.
Non, c'est ou, hein. C'est pas et.
Oui, voilà.
C'est huile ou beurre ou sein doux. C'est pas les trois en même temps.
Alors ensuite, question suivante. Combien de toboggans trouve-t-on au parc aquatique situé près du Hungaroring et quelle distance totale, peu importe l'unité, représente-t-il bout à bout? Donc ça avait déjà, on avait déjà fait une question
sur le parc aquatique.
Le parc.
Ouais.
Ah, c'était moi, je crois.
Et là, c'est vraiment sur les toboggans du parc.
C'était moi la question.
Ah bon?
La question de la Hongrie l'année dernière, c'était moi, ouais. Comment s'appelle le parc? C'était, je crois. Ouais.
Et c'est quoi le nom?
Ah, c'est le nom de la petite ville qui est à côté du circuit, c'est Mogyorod, Mokyodor, un truc comme ça.
Aquapark.
Mogyorod.
Alors ensuite, on a combien de pilotes hongrois ont remporté un grand prix à domicile?
Oh.
Car ça reste une des plus belles choses pour un pilote.
Fait donc dans la science-fiction.
Et enfin, quel est le point commun entre Damon Hill, Fernando Alonso, Jenson Button et Heikki Kovalainen?
Ah bah celui-là j'ai déjà trouvé.
Ah
donc.
Oui.
C'est possible.
Donc il y a Shinji, Steve.
Pas celle du toboggan parce qu'on l'a déjà eu.
Bah, j'ai envie de dire celle du toboggan, c'est de l'aquapark, donc en effet on a déjà parlé.
Ouais.
La dernière.
On a parlé de l'aquapark. Voilà. Pas du nombre de
la dernière est trop facile. Enfin, elle est. Pas très très difficile la dernière.
Mais en même temps, ils n'ont qu'une semaine.
Ah oui. Donc, et c'est puis les Hongrois là, la question sur les Hongrois là, c'est Dino, toi qui as la réponse, c'est dur à trouver ou?
Sur les Hongrois qui ont gagné le Grand Prix national.
En voyant la réponse, tu penses que les gens en une semaine y trouvent ou?
Théoriquement, oui. Enfin, tu vas sur Wikipédia à la page Grand Prix de Hongrie.
Tu vas sur TF1 et tu cherches pilote hongrois. Je pense, d'accord.
On va prendre la dernière alors du coup, parce qu'elle est pas si évidente, peut-être.
C'est vrai ça, elle est peut-être pas si évidente que ça.
Ce qu'on pas suivi.
Donc c'est quelle question, Shinji?
La dernière.
Le point commun entre plusieurs pilotes.
On va être gentil parce qu'il y a qu'une semaine, c'est avant les vacances, donc.
Ok, bah vous.
Par contre, après, n'oubliez pas qu'il y a 4 semaines. Donc là, par contre, les Kislar, vous aurez le temps de la chercher.
Vous d'ailleurs, je tiens à dire, franchement, vous n'avez pas été originaux parce que on vous demande des questions sur des trucs beaux et compagnie, et rien quoi. Donc on vous donne des thèmes alternatifs, on vous donne l'occasion d'être créatif et vous n'êtes pas créatif.
Vous avez échappé à ma question.
Donc, avant de donner le nom du vainqueur, nous allons remercier Alexane donc, pour sa réponse et pour sa question qui nous posait la question sur le nombre de toboggans. J'ai pas la réponse. Voilà.
Ah bon.
Donc, voilà. Alors ensuite, on peut remercier Adelin pour sa question sur le grand. Quel pilote Combien de pilotes hongrois ont remporté un Grand Prix à domicile? Et la réponse, messieurs, c'est
zéro.
Parce qu'il y a eu que Zolt Baumgartner qui n'a jamais gagné un Grand Prix.
Il n'y avait pas un piège. Genre,
Techniquement,
je n'ai pas regardé, mais je pense que lui pensait à la Formule 1, mais comme c'est pas précisé,
le BTCC ou un truc
Grand Prix de F1, on aurait pu accepter une réponse qui nous dirait oui, Ferencz, il a gagné chez lui.
Oui.
Il a gagné, oui.
On va féliciter aussi Germain pour sa question sur le plat traditionnel hongrois qui est.
Je vois pas.
Si on fait un jeu de mots et qu'on prononce mal, c'est un endroit où on enferme les prisonniers politiques dans l'URSS.
Ah oui, le goulash.
Goulash, oui, d'accord. Voilà.
C'est très bon le goulash.
C'est beau jeu de
blague. C'est beaucoup moins bien.
Ça passe moins bien.
Et donc nous allons féliciter Clément pour sa question. Et donc Clément, tu remportes un petit papier pour le tirage au sort en fin de saison. Et je rappelle la question, c'est la suivante. Quel est le point commun entre Damon Hill, Fernando Alonso, Jenson Button et Kiko Blinen? Je crois d'ailleurs, si je me trompe pas, que j'ai donné un indice dans l'émission.
Oui.
Voilà. Donc du coup.
Voilà, vous avez qu'une semaine, même, je crois c'est facile, hein, ça va.
Il y a quelques noms qui ont été cités par Steve qui devraient vous mettre sur la piste.
Oui, voilà. Et ça va peut-être arriver dimanche. Non.
Oui, Perez.
Il faudra couper là. Non.
Et donc n'oubliez pas de mettre une question sur la Belgique. Et là, vous pouvez vous lâcher, mettre des trucs, vous mettre des trucs vicieux parce que la Belgique, c'est que le 2 septembre.
Oui. Alors d'ailleurs, tiens, je te dis comme tu l'abordes, on va un peu parler du programme.
Oui.
Puisque là, voilà, il y a la Travestival, donc il y a aussi le Travestival pour
nous,
le Life. Donc là, on se retrouve la semaine prochaine pour le SAV du Grand Prix de Hongrie, la meilleure émission de la saison. Puisqu'on est en Hongrie, Shinji.
Oui. Hein,
puisque tu te rappelles que le Hungaroring, tu es
pour?
Bravo, Shinji. Ah. Ensuite, on se retrouvera juste après, la semaine d'après, début août, pour
un
numéro du mag avec nos chroniqueurs. Et puis, on va prendre des vacances. On va prendre 2 semaines de vacances.
Parce qu'on dirait pas comme ça, mais on vous fournit quand même une émission toutes les semaines depuis début mars.
Oui. Mais on va vous retrouver fin août. On vous retrouvera donc, après 2 semaines de vacances, 2 semaines avant le Grand Prix de Belgique. Pour une émission spéciale, un peu comme on fait une émission jeu où, donc on prendra 4 candidats. Donc, si vous voulez souhaiter à cette émission, si vous souhaitez participer à cette émission, que vous ayez déjà participé au SAV, c'est vraiment une émission en dehors, que vous ayez déjà participé au SAV cette année ou pas, vous n'hésitez pas à nous contacter via l'adresse contact@savf1.fr. On conviendra d'une date, on s'arrangera pour faire cette émission. Une émission ludique avec des questions, jeux.
Ne demandez pas ce qu'il y a dedans parce que on sait pas.
On n'en sait rien. Voilà. Tu vois, allez, on part en vacances avec le Hungaroring, on revient avec Spa et Monza. Moi, je dis. C'est
bon. Et les étés sont toujours beaux en F1. Silverstone, Hockenheim, Hungaroring.
Ah oui, Ring, Spa, Monza. Monza. J'ai oublié de te dire, en parlant d'été, j'ai vu quelque part sur Internet qu'il est même produit hier. Un Grand Prix. C'est quand même étonnant.
Alors, je t'ai pas entendu. Je
disais que Vettel, il avait encore jamais gagné de Grand Prix au mois de juillet.
Ah, ok, oui, j'avais vu ça aussi.
Et donc, c'est quand même, il y a au moins deux, trois Grands Prix. Non mais jamais, hein. Jamais, pas encore.
Même l'an dernier?
L'année dernière, c'était son passage à vide à Vettel en Allemagne et puis en Angleterre. Alonso avait gagné en Angleterre et puis en Allemagne, c'était à Vettel.
Il n'a pas gagné en Angleterre il y a...
C'était au mois de juin.
C'était peut-être
en fait.
Toute fin
c'était
juin.
Fin juin.
Ah oui, en 2009, ouais, c'était fin juin.
Bizarre, hein.
Ah.
Donc dimanche, votez, pronostiquez pas Vettel. Maintenant, voilà. Mais c'est Perez qui va gagner.
Sinon, peut-être que la semaine prochaine, vous n'aurez pas envie de regarder le Grand Prix de Hongrie, même si vous rendriez très triste, Dino.
Et dans ce... voilà, surtout vous feriez preuve d'une absence totale de goût.
C'est vrai. Mais dans ce cas-là, rassurez-vous, on a la solution. Et la solution, c'est Steve qui va vous la donner. Les solutions même.
Alors c'est les 7 trucs à faire si on ne regarde pas la Formule 1, c'est ça?
Oui,
c'est
voilà.
Pas bourré. Hein. Alors, la première, bon, je vais profiter des JO tous les 4 ans, c'est regarder les JO. Parce que pour ceux qui
font
les autres sports,
ouais,
il faut en profiter. Quoi. Donc ça, celle-là, elle était facile. Ensuite, en deux, j'ai noté... regarder le chassé croisé des vacances, parce que c'est aussi une file de voiture, mais c'est pas le Hungaroring.
Ah, c'est vrai que si tu te fais chier, tu te mets sur le bord de la 13. Voilà, et voilà, tu regardes les gens
ou même sur BFM TV, ça y est aussi.
Les gens qui ne roulent pas.
Oui, c'est vrai. C'est vrai que BFM TV, ils font des lives en direct.
Voilà, en direct, en direct de la 6.
Seconde par seconde.
Il y en a un qui a pris un drive faux, voilà. Ensuite, en numéro 3, j'ai mis soigner les coups de soleil pour ceux qui reviennent de leurs vacances, qui ont eu la chance de partir
c'est
en juillet.
Il a commencé à faire beau,
avant de retourner aux affaires au mois d'août.
Et inversement, acheter la crème solaire pour les Haoussiens.
Voilà. Ensuite, en numéro 4, pour se préparer au retour de la Ligue 1, s'abonner à la nouvelle chaîne sportive, parce que c'est bientôt.
Il y aura bientôt la Formule 1.
Voilà, ouais, donc,
vous ferez peut-être bientôt une pierre de coups.
Voilà, pour faire plaisir à vos proches qui aiment bien la F1 aussi, ça fait d'une pierre de coups. Ensuite, j'ai noté un numéro 5, profiter des piscines pendant qu'il fait bon en famille, parce que c'est pas tous les jours, vu que le dimanche c'est jour des familles. Donc, vous pouvez profiter d'aller à la piscine ou au lac ou à la mer, comme vous voulez. Ensuite, numéro 6.
On ira à la Seine, nous, Shinji.
Vu que c'est l'anniversaire d'Alonso, c'est...
Non, tu l'as avec moi, Shinji, allez, s'il te plaît.
En 6, vous pouvez envoyer un message sur Twitter à Alonso pour son anniversaire, hein, parce que vous pouvez aimer Alonso sans aimer la F1. C'est pas compatible, voilà. Et donc en numéro 7, j'ai marqué aider vos enfants ou vos neveux dans leur cahier de vacances parce que c'est encore les vacances et il faut pas lâcher l'affaire pour l'école. Voilà, c'est la période des cahiers de vacances.
Mais sincèrement, si vous aimez vos gosses, foutez-leur la paix.
Oui, mais c'était pendant le Grand Prix, s'ils se font chier, quoi, voilà.
Ouais, non, si vous aimez leurs gosses, foutez-leur la paix.
Ou alors, tu dis, soit tu fais tes devoirs, soit tu vas regarder le Grand Prix de Hongrie, hein. Voilà, le gamin, il va faire ses devoirs. Voilà. Non.
Moi, je sais pas, j'aurais hésité.
Rien que pour la curiosité de l'hymne mexicain, il faut regarder. Voilà.
Non, l'hymne anglais.
L'hymne anglais.
Non, c'est vrai que McLaren marque.
Ils ont récupéré le même podium qu'à Silverstone.
Ah oui, mais il est...
Oui,
alors la question, la question, c'est est-ce que c'est pour les Grands Prix Santander ou pour tous les Grands Prix?
Donc du coup, je dois retirer mon drive-thru, enfin, modifier mon drive-thru que j'avais donné à l'organisation et qu'en fait, non, c'est...
C'est la F1.
C'est à Santander et à la F1 de manière
générale.
On ne sait pas à qui,
sait
mais
pas encore.
En tout cas, c'est à la F1.
Mais on est fait dimanche, on saura. Et si dimanche c'est le même, va falloir s'y habituer. Et j'ai peur qu'il va falloir s'y habituer parce que t'as remarqué quand même que sur les côtés ils ont mis un truc avec le nom de tous les champions du monde.
Mais
ça c'est un coup de la F1 ça.
Mais sincèrement le podium est très joli. Moi ce que je trouve pas joli c'est les drapeaux dans les écrans.
Oui c'est pas.
Mais sinon le podium est très joli. Enfin voilà c'est un très joli podium. Voilà.
Mais c'est bizarre qu'ils aient fait ça au milieu de l'année quoi aussi.
Oui
c'est. Voilà, le faire au début d'une année quoi aussi.
Voilà surtout qu'en plus Santander. Enfin si c'est Santander ça a déjà été fait avant.
Mais je pense
qu'ils ont fait ça exprès.
Je pense
parce que c'était le Grand Prix de Grande-Bretagne.
Moi j'ai cru que c'était Silverstone High Tech qui faisait ça mais en fait là j'étais surpris.
Donc alors on a déjà eu un peu les promos de Steve.
Ah oui. Non mais sinon les McLaren elles marchent souvent bien en Hongrie hein, il y a eu beaucoup de victoires
c'est
McLaren
vrai.
Récemment donc bon est-ce que ça se confirme ou pas, je sais pas. Mais c'est difficile les pronostics hein. Si la qualif est sur le sec, ça va être très...
Ouais. L'autre il nous dit ça. Monsieur quand même 3e du Pirelli GP Challenge.
Je peux remercier Button et ses mécanos quoi. Mais honnêtement pronostic je mettrais quand même Vettel parce qu'il va quand même il a gagné qu'une course cette année et je pense que la Red Bull, il n'y a pas beaucoup de lignes droites, de grandes lignes droites pour parce qu'il souffre un peu aux vitesses de pointe, du coup.
Moi, je dirais bien.
Vettel avec une belle pole, un peu comme à Valence, et puis ce coup-ci, ça, il va finir, et puis Alonso et Perez seront pas loin, puis voilà, je pense.
Bon, allez, je dirais un Hamilton, par rapport justement, parce que les elle marche plutôt bien, ou un Grosjean, si ça devait être une première victoire.
Ah.
Toi, bien. Dino?
Et moi, je dirais Alonso, si ça s'est 31 ans et que
c'est vrai, bien. Ça, voilà. Ça peut le motiver, hein. Faut pas croire.
Et si c'est une première victoire, je dirais Massa.
Oh. Ah, mais le première victoire en carrière.
Oui, ça sonnera un peu comme une première victoire. D'accord.
Le Massa 2.0, alors.
Voilà, la première victoire de Massa 2.0. C'est certainement beau, hein.
En Hongrie, oui, ce serait beau, mais oui, il faudra des circonstances, quoi, aussi, hein, quand même.
Messieurs, on arrive à la fin de cette émission. Merci, Steve, de nous avoir accompagnés. Ce fut un grand
merci
plaisir.
Merci à vous. Bien, partager, plaisir partagé.
On rappelle, hein, parce que il y a au moins encore un mag dans 2 semaines, juste avant les vacances. Donc, si vous avez des questions, n'oubliez pas, vous pouvez nous les poser. C'est sur répondeur@savf1.fr.
De même, si vous voulez participer à l'émission, que ce soit aux émissions après Grand Prix ou à l'émission spéciale du mois d'août, le Poleman de l'actu du mois d'août. Donc, c'est contact@savf1.fr.
On vous rappelle qu'on est sur iTunes. Que vous pouvez aussi nous trouver sur podcastfrance.fr.
Le meilleur site des podcasts français.
Tout à fait. Car le SAV de la F1, c'est...
C'est quoi, le coup de la Rolls,
le Ritz des podcasts.
Voilà, le Ritz des podcasts. Voilà. À noter sur Twitter, si vous me suivez, hein, vous serez pas débordé sur votre timeline, hein, ça, il n'y a pas de souci. Mais...
Oui. Il y a des fois, vous avez des... Tiens, 7 plus 1, 9. Vous dites, tiens, qu'est-ce qu'il a voulu nous dire par là?
Je sais pas pourquoi j'ai mis ça. Parce que...
Mais non, mais j'ai pas suivi Twitter pendant la course.
Mais c'est pas sur Twitter, c'est parce qu'il y a un moment, Malbrand, qui avait, c'était quand il y avait Schumacher et Raikkonen, et il a dit, il y a 9 titres.
Oui, je me suis fait la remarque. Donc, selon Malbrand, 7 plus 1 égale 9, quoi.
Égale 9, voilà.
C'est parce qu'il voit déjà le 8e titre de Schumacher.
Mais voilà,
il voit loin alors.
Mais voilà, il y a les comptes de Dino, de Fab, de Steph, de Gus Gus, de tout le monde. Donc,
on va essayer de généraliser le hashtag SAVF1
voilà.
dans nos tweets.
Voilà, hashtag SAVF1.
Donc vous cherchez SAVF1 et vous trouverez un peu tous les profils et certains de nos auditeurs qui sont très actifs sur Twitter.
Voilà, c'est plus simple que de dire tous les comptes Twitter. Voilà. Hashtag ou dièse pour les plus vieux et savez enfin. Et comme d'habitude, vous savez, on va se quitter sur ces quelques mots de poésie. Apparemment, il a eu du mal cette semaine.
Non, j'en ai deux.
C'est très bien.
Donc je sais pas, je donnais deux ou t'en veux un particulier?
C'est comme tu le sens. C'est la fin.
J'ai découvert que les Allemands avaient vraiment dans un sens du proverbe, mais vraiment un sens profond, et ils avaient de très jolis proverbes, et des proverbes qui me semblaient de circonstances pour ce week-end, deux proverbes sur Sébastien Vettel, hein, principalement, hein, parce que c'est mon chouchou, donc voilà, j'étais obligé un petit peu de vouloir lui donner une petite leçon pour qu'il retienne ça et compagnie. Le premier proverbe, ça serait, c'est plutôt à l'adresse de la FIA, mais à la lumière de Sébastien Vettel, c'est celui qui ne punit pas le mal l'invite.
Oh putain, c'est beau, c'est beau.
Et enfin, pour Sébastien Vettel, je te dirai ceci, Sébastien, je te regarde dans les yeux, à travers ta visière, et je te dis, agir dans la colère, c'est s'embarquer dans la tempête.